Et bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast. Et bien c'est aujourd'hui, comme tous les mercredis sur Gameblog.fr. Et aujourd'hui, pour ce podcast 127, et bien nous allons poser une grande question. Faut-il avoir peur de la dématérialisation ? Alors la dématérialisation, vous le savez, on l'a évoqué en 2008. Ça a été beaucoup plus présent en 2009. Et puis on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si ça ne va pas commencer finalement à s'imposer un peu en 2010. Nombre de constructeurs, en tout cas, poussent en ce sens. Dans ce podcast, on parlera justement des différents acteurs qui portent de plus en plus leur dévolu vers le dématérialisé. On verra aussi, chiffre à l'appui, si ça marche déjà un petit peu ou beaucoup, ou en tout cas si c'est un véritable avenir. Et puis on parlera aussi de nos expériences en tant que consommateurs avant tout et joueurs. Est-ce que ça a une partie un peu bénéfique ou finalement on y voit plutôt des inconvénients? Et bien on va en parler tout ça pendant une heure autour de la table rouge laquée. Pour ça, et bien il y aura Traz. Ça va Traz?
Salut, ça va très bien, merci.
Cool. Et puis Julo?
Bonjour monsieur.
Ça va?
Oui, très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Julien.
Ça va bien?
Oui.
Oh, on s'est pas vu depuis très très longtemps.
Oh bah là, ouh là là.
Allez, c'est parti pour ce podcast 127. Faut-il avoir peur de la dématérialisation ? Pour poser un petit peu les chiffres déjà, eh bien, sachez qu'en France, le chiffre d'affaires généré par la dématérialisation pour les éditeurs, ça représente en 2008 entre 2 et 8% de le chiffre d'affaires global généré par les éditeurs, c'est-à-dire minime. C'est pas,
ah oui,
c'est
négligeable par rapport à la distribution traditionnelle.
Mais ça commence à flirter quand même avec les 10%. Donc il commence à se poser un petit peu quand même quelques questions. D'autant que selon les analystes les plus éclairés, 40% du marché de jeux PC d'ici à 2012, devrait être, enfin 40% du chiffre d'affaires devrait être généré par le dématérialisé. Là, ça commence à devenir assez important, d'autant que ça générera plus de 1,2 milliard d'euros en Europe, toujours sur ce marché du PC. D'ici 2012.
Qui est clairement le marché de référence pour ce qui est d'étudier un petit peu la dématérialisation. C'est le premier qui s'y est mis et c'est sur là-dessus que ça bouge le plus en fait.
Mmh. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de chiffres, effectivement, les chiffres que tu as cités entre 2 et 8% en 2008. En 2009, ça s'est vraiment accéléré. Moi, j'ai eu cette sensation-là que le dématérialisé n'a pas encore pris le pas sur les versions en dur, évidemment, mais. Par rapport à 2008, il y a eu un bond gigantesque en avant.
Ça a tellement accéléré cette année que j'avais même l'impression qu'on en était déjà à plus que ça sur PC. J'avais l'impression que vraiment aujourd'hui tout le monde achetait ses jeux sur Steam, qu'il y avait des tas d'offres.
Ça dépend de quelle catégorie de joueurs
en téléchargement,
à quelle catégorie de joueurs t'appartiens, quoi. Mais effectivement, les joueurs PC ont plus l'habitude de consommer des jeux dématérialisés de toute catégorie, casual et moins casual, que les joueurs console, évidemment. Déjà, ne serait-ce que pour des problématiques de prix sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, parce que Steam, avec l'avance qu'il a aussi tout un système de promotion et de trucs et de packs de jeux et qui font que c'est vraiment intéressant de consommer en dématérialisé, financièrement parlant, sur PC aujourd'hui.
Justement, comme tu le disais, Raon, on va parler tout à l'heure de Steam, qui aujourd'hui représente la plateforme principale, là où un petit peu énormément de choses se passent au niveau du dématérialisé. 20 millions de comptes actifs. C'est quand même colossal, des jeux qui sont donc totalement en téléchargement, officiels et bien sûr.
Puis un catalogue aussi, de ouf aussi.
De malade, ouais. Il y a quoi ? Il y a plus de 477 jeux à moins de 10 euros. Ça commence à faire pas mal déjà. Et il y a un catalogue global de 1040 jeux à l'heure actuelle. Ça va. Et puis pas que des mauvais en plus. Ils viennent de gros éditeurs. Electronic Arts, Activision, THQ, Sega, Codemaster, LucasArts, Ubisoft, 2K Games. Il y a de quoi faire. On parlera aussi forcément de Metaboli. Qui a été lancé en 2001 et qui, mine de rien, fait aussi son petit bonhomme de chemin. 15 000 ventes dématérialisées par mois.
Sur PC, toujours, effectivement, mais ils font beaucoup de location aussi. C'est pas tout à fait le même modèle, mais c'est intéressant aussi. Et c'est aussi du dématérialisé.
Exactement. Et puis, on parlera forcément de OnLive, cette nouvelle plateforme qui devait arriver à la fin de l'année 2009, normalement, qui est un petit peu retardée, mais qui devrait normalement arriver définitivement en 2010. Et puis, on a pu voir des choses et c'est quand même assez bluffant.
Elle est en cours de bêta-test à l'heure actuelle aux États-Unis. Qui est le premier marché qu'ils vont attaquer. Ils viendront à l'Europe après, en commençant a priori par l'Angleterre. Effectivement, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller regarder les quelques 40 minutes de vidéo de présentation du service par son fondateur Steve Perlman, qui a fait cette présentation à des étudiants et qui explique très bien comment ça marche, ce qu'ils veulent faire et le modèle économique aussi derrière.
Justement, pour ceux qui auraient été un petit peu déconnectés, OnLive, c'est quoi ?
Alors, c'est une dématérialisation dite de support, c'est-à-dire qu'en gros, vous jouez au jeu C'est du games on demand, comme ils disent eux, c'est-à-dire du jeu à la demande en bon
c'est
français.
C'est la VOD du jeu vidéo.
Voilà, t'as pas besoin de console chez toi, il te faut juste un terminal qui est soit un Mac, soit un PC, peu importe sa puissance, ou bien la micro-console si tu veux le connecter à ta télé. Il te faut une connexion internet et c'est tout. Tous les jeux sont hébergés directement sur leur serveur grâce à la fameuse technologie du cloud computing. Et donc, quand tu vas faire une partie de Crysis, par exemple, tous les détails sont à fond chez eux et eux t'envoient une image comme un stream vidéo. Et toi, tu leur envoies juste ta manette et c'est tout.
Voilà. On en reparlera tout à l'heure dans le podcast parce qu'effectivement, ça pose énormément de questions et puis ça ouvre beaucoup de voies, hein, pour l'évolution du jeu vidéo. On a vu aussi en 2009, hein, la première finalement console vraiment grand public d'un énorme constructeur, Sony, la PSP Go, qui mise, elle, à 100% sur le dématérialisé. C'est quand même un signal fort.
C'est un signal, c'est peut-être plus le signal qu'il faut s'y mettre maintenant si on veut que par la suite on ait l'expérience qu'il faut pour en tirer parti. Maintenant, effectivement, on dit une console dématérialisée complète, mais c'est, pour moi, il y a vraiment une différence fondamentale entre OnLive et le reste de la dématérialisation. C'est-à-dire que la PSP Go, ça reste un hardware, c'est un truc que t'as besoin d'acheter, qui coûte quand même assez cher comme console.
Faut plus le voir, je pense, comme un test grandeur nature, justement, de ce qu'une console...
C'est plus le test commercial
pour
la vente
peut apporter
de jeux
à Sony, justement, pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain.
Et pour leur PSN, surtout, en l'occurrence, pour pouvoir pousser le PSN et la consommation par le PSN. Mais donc, pour finir ce que je disais, il y a une différence pour moi entre la dématérialisation dite de consommation, qui sont en fait les jeux dématérialisés et l'achat de contenu dématérialisé, et la dématérialisation de support, où tu n'as plus vraiment de console à proprement parler. Et ce qui est le cas d'OnLive, en fait, qui est la dématérialisation que je qualifierais de totale, pour le coup.
Et ça tombe bien, parce que dans ce podcast, complètement incroyable, hein, podcast de fou, hein, et on va parler de cette distinction, le support, donc là, les machines, hein, qui vont peut-être à terme se dématérialiser, l'espèce de spectre comme ça, de la console unique qui pourrait rejaillir, et puis la dématérialisation
ouais, c'est compliqué comme mot, hein.
dans les jeux à proprement parler, donc ça veut dire juste les 0 et 1 à transférer pour pouvoir s'amuser. Déjà, un petit tour de table rouge laqué, incroyable,
exact.
Pour savoir déjà, vous, en tant que joueur, comment est-ce que vous avez vécu les 12, 24 derniers mois ? C'est vrai qu'on a l'impression, un peu en discutant avec beaucoup de joueurs, qu'il y a encore quelques temps, la dématérialisation, c'était le grand Satan, que forcément, c'était néfaste, mauvais, qu'on n'en avait rien à faire. Et j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer un petit peu dans les mœurs. Phrase.
Moi, je sais pas si je suis un très très bon client de la dématérialisation pour l'instant.
Tu es plutôt contre, même.
Très forcément. Enfin, par rapport en tout cas à ce qui s'est passé en 2009, où effectivement il y a eu, donc comme je disais tout à l'heure, un grand bond en avant des DLC, etc. Donc tout ce qui était dématérialisé que les éditeurs nous vendent à tire-larigot. J'ai pas été un très très grand consommateur de ça. C'est vrai que j'ai un peu de mal à m'y mettre parce que pour moi, il me faut vraiment un support physique. Quoi. J'ai vraiment du mal. Je ne sais pas si c'est le côté collectionnite que j'aime beaucoup, mais j'aime avoir quelque chose dans la main. Des vraies jaquettes, des vrais.
T'as envie d'avoir des vraies jaquettes dans la main, c'est bon.
C'est valable pour ce que tu consommes en dehors du jeu vidéo ou pas ? Genre quand tu prends de la musique ou des films, t'as besoin aussi
Je préfère ne rien acheter du tout et m'abstenir effectivement d'acheter un CD et attendre.
T'es pas du tout iPod, par exemple ?
Non, je suis pas iPod, j'en ai pas d'ailleurs, et effectivement j'ai un petit peu de mal, quoi. Je savais pas dire que j'aime pas la musique MP3, etc., qui est tellement plus simple à utiliser, mais
tu consommes
moi j'aime
CD,
bien avoir effectivement des...
L'objet.
Ouais, l'objet en main.
Bah, ce sera intéressant parce que là, dans quelques instants, après on va se faire un grand récapitulatif des arguments positifs finalement pour le dématérialiser. Qu'est-ce que ça peut apporter de bénéfices ? Et vous allez voir, finalement, on a quand même réussi à lister beaucoup de points. Et puis les arguments un peu plus négatifs sur les choses où on peut se poser des questions, en tout cas, ou sur lesquelles on trouve que le dématérialiser n'apporte peut-être pas énormément de choses, voire peut-être même un retour en arrière pour certaines choses. Julo, est-ce que toi, ton sentiment a un peu évolué sur le
dématérialisé ? Moi, je suis tout à fait, en fait, dans le joueur type que tu décrivais il y a deux minutes, c'est-à-dire que moi, enfin c'était pas le grand Satan non plus, hein, mais un peu comme Traz, moi je dois être très attaché aussi, ça fait longtemps qu'on joue quand même, et puis on a eu plein d'objets, on en a gardé quelques-uns, de temps en temps on fait des vide-greniers, on en trouve d'autres, et c'est des petits moments très très sympas, et c'est des choses qu'on aime posséder, etc. Mais c'est vrai que peut-être pas cette année, peut-être même à partir de d'avant, en 2008, j'ai commencé un peu à revoir ma copie, parce que bon déjà, il y a le principe des DLC, qui est génial, franchement. Bon, alors c'est vrai qu'il y a le truc bassement mercantile
qui est
énervant des fois, mais quand tu vois ce qui a été fait par exemple avec GTA, et puis quand t'aimes vraiment un jeu, pouvoir récupérer du contenu après, etc. Voilà.
C'est comme les bons chasseurs, les mauvais chasseurs.
Exactement.
Il y a bons DLC.
Voilà, il y a les bons DLC, les mauvais DLC.
Exactement.
Et donc il y a les DLC, et puis après la vidéo à la demande que j'ai surtout découvert largement cette année, quoi. Et puis bon, bah, le principe de téléchargement pour les consoles portables, notamment avec la PSP, même la PSP normale, hein, c'est une console laquelle on peut utiliser du dématérialisé, c'est ce que je fais maintenant. Et c'est vrai que c'est super pratique, et c'est ça qui va faire changer tous les esprits, je pense, au niveau de la dématérialisation. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Alors, donc, je suis tiraillé, en fait. Je suis un peu tiraillé, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai envie de continuer à pouvoir collectionner des trucs, à pouvoir trouver des vieux trucs, et je me dis, dans 6 ans, je trouverai plus de vieux trucs.
Bah,
parce
si,
que tout sera dématérialisé. Hein. Non, mais je trouverai pas les trucs d'aujourd'hui qui seront devenus des vieux trucs.
Ah, oui,
tu vois,
parce que aujourd'hui, c'est la poussière. Mais la poussière.
Exactement. Exactement, mais je suis tiraillé parce qu'effectivement chez moi ça déborde des placards, ma femme aime pas, voilà, tu vois, c'est
elle t'aime pas, elle t'a pas quitté encore.
Elle aime pas les placards qui débordent de jeux et trucs comme ça, donc je dois en mettre chez mes parents, enfin bref, on s'en fout. Mais dans tous les cas,
bah non,
c'est
non,
vrai
on s'en
que...
fout pas, moi je trouve que c'est important justement.
Si vous trouvez l'adresse des parents de Julo, vous aurez tout ça connecté.
Excuse-moi de te couper, mais quand on voit les vieilleries qu'on a chez nous.
Et qu'on regarde la larme à l'œil.
Oui, et qui coûte aujourd'hui une fortune. Je suis désolé, mais
c'est pas les DLC
qui dans 10 ans vont te rapporter.
Mais c'est vrai qu'il y a la dimension
je m'en
économique.
Fous, du côté économique, mais bah, personnellement, je m'en fous, je la vendrai jamais. Ouais. Mais voilà, il y a ce côté-là aussi, quoi. Je suis désolé.
Et tous ces gens qui aiment revendre leurs jeux, les payer moins cher parce qu'ils les achètent à d'autres, etc. Bah ça, c'est fini aussi.
Super Potato à Tokyo.
Mais oui.
Qui nous a fait triper quand on est parti avec Julo.
Mais faut pas enterrer ça trop vite.
Bah a pu.
Il faut pas enterrer ça trop vite parce que déjà, à mon avis, ça restera toujours. Il y aura toujours des passionnés qui seront attachés à l'objet. Enfin, je veux dire, il y a quand même des gens qui collectionnent des timbres. Qui a utilisé un timbre récemment?
Oui, mais les timbres, moi, ça existe. Non, mais les timbres.
D'accord.
C'est vrai que moi, ça fait
la plupart du temps, t'achètes des trucs pré-postés, machin. Ouais, voilà. Ouais,
ouais, non, mais attends, les timbres, ça existe encore. Je veux dire, il y en a encore qui sont fabriqués aujourd'hui. Tu peux en acheter.
Bien sûr, il y a des collections, etc.
Or, si là, maintenant, on arrête tout, il y a plus de jeux, il y a plus de dématérialisé.
Mais
six
c'est pas possible.
Non, mais tu sais bien que plus c'est vieux, moins tu en trouves. Donc là, aujourd'hui, on trouve des choses, c'est super potato, parce que sur la génération de consoles d'avant, il y avait encore beaucoup de il y avait que des jeux matériels, quoi. Donc au bout d'un moment, toutes ces vieilleries vont disparaître. On sait bien qu'il y a ça disparaît au fur et à mesure. Voilà,
on veut réagir, parce qu'on parle de Super Potato depuis tout à l'heure, mais on a juste pas expliqué ce que c'est une boutique au Japon qui est très célèbre et qui fait énormément de jeux d'occasion et qui
et si vous voulez et si vous voulez la découvrir, voilà, si vous découvrez Gameblog depuis peu, et ben il suffit d'aller voir le reportage vidéo qu'on a fait en tapant Super Potato dans leur moteur de recherche qui tue.
C'est une belle immersion en tout cas pour ceux qui aiment le rétro gaming. Et c'est vrai, de voir les objets, ça procure une sensation ultime que ne procurera effectivement jamais une collection aussi belle soit-elle en numérique.
Voilà, effectivement, mais je pense pas que ça disparaîtra complètement. Donc,
de quoi
part,
tu veux dire
l'aspect grenier, collection, vieilles choses,
nécessairement,
etc.
Ça disparaîtra au bout d'un moment.
Ça disparaîtra si des jeux de ce type-là ne sont plus produits du tout.
Ah voilà, c'est ça. Ouais.
Mais je ne pense pas que le dématérialisé, en tous les cas de sitôt, mettra complètement à bas la distribution traditionnelle. Il y en aura toujours un peu.
La preuve, il y a toujours des versions collector qui sortent pour pas mal de jeux. Qui se faisait de plus en plus rare à une époque, là ça commence à revenir pas mal.
Il y a toujours une légitimité donc, économique à faire
chose,
de la boîte.
Mais tu vois, par contre, je sais pas, là, j'ai l'impression de passer du vieux con au visionnaire parce que.
tout c'est bien. Corps,
non, c'est pas ça, c'est que comment tu peux douter de ça? Demain, ça sera tout dématérialisé, j'en suis sûr.
Mais demain, ça peut être dans 20 ans, je le retrouve
après-demain.
Mais moi, pour moi, c'est super rapide. Franchement, je me demande s'ils sont pas en train de se poser la question pour la prochaine génération. Parce que, tu vois, il y a des petits trucs qui gênent encore, par exemple, dans le principe de la VOD. Aujourd'hui, ce qui bloque, regarde, on a les films seulement en VF, ou bon, idéalement, on les aura peut-être bientôt seulement en VO ou en VF à côté, mais peut-être pas avec le choix des langues dans le même format. Bon,
techniquement, ils peuvent le faire.
Ils pourraient, je sais rien.
Tu veux dire en
mais c'est en le son. Aujourd'hui, on fait pour ceux qui ont des super amplis, etc., du master audio, du machin, des trucs qui sont super lourds, etc. Donc, il faudra quand même déjà que les disques durs deviennent de plus en plus gros, mais ça, on se fait aucun souci là-dessus. Hein. On se souvient tous que les disques durs, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, enfin, c'était. Voilà. Donc, ça va augmenter très, très vite. Très, 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 très vite. Et de la même manière, les connexions Internet, mais c'est de la folie à quel point.
Pour la
y a
France,
différence.
Oui.
Mais ça même, moins oui, mais même mondialement quand même.
Faut pas oublier qu'effectivement, aux États-Unis, ils sont bien en retard.
Oui, ils sont par rapport à nous.
Ça puisse paraître.
Ceci dit, OnLive a suffisamment techniquement, a priori, d'après ce qu'ils en disent, de bande passante pour fonctionner sur des connexions de.
Mais c'est un jeu que tu ne stockes pas chez toi.
Non, non, bien sûr. C'est pour ça que je parle de l'importance de la dématérialisation de support par rapport à la dématérialisation de contenu.
Parce que là, il n'y a plus d'histoire de disque dur.
On va y revenir.
Mais c'est vrai que voilà. Ça me paraît imminent.
Non, mais
quoi.
C'est évident que pour moi, on va aller forcément vers quasiment tout dématérialisé à terme. Mais pour moi, c'est pas demain, c'est plutôt après-demain.
Alors qu'il y a après-demain pour toi, c'est quoi, c'est
dans deux jours? Bah c'est vendredi.
Non, je dirais dans les 20. Je dirais après-demain pour moi c'est dans les 20 ans qu'il y a plus de.
C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense.
Ah dans 20 ans, mais vous êtes fous les gars.
On sera déjà tous morts, il y aura trop de carbone.
Non, attends, je veux pas mourir dans 20 ans.
Il y a Copenhague. 2050 c'est fini tout meilleur.
Ah pour moi c'est dans largement moins que 20 ans.
C'est la fin des temps.
Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de signaux, en tout cas de feux verts qui s'allument pour la génération d'idées matérialisées. On l'a vu avec les propos de Monsieur Wada, président de Square Enix, qui en parle de plus en plus, de la console unique, du passage au dématérialisé, le signal de Sony avec la PSP Go, la volonté d'OnLive.
Faudra qu'on en parle de la console unique d'ailleurs, parce que ça fait bien marrer ce
oui.
concept.
Non, parce que ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de ça.
C'est ridicule.
Non, c'est pas si ridicule que ça.
On va y revenir, mais on n'a pas entendu Raon sur sa vision justement actuelle de comment il voit désormais le dématérialisé.
Alors,
plutôt contre avant, plutôt pour maintenant.
Pour répondre à la question même du podcast, c'est-à-dire faut-il avoir peur du dématérialisé ? Personnellement, je pense que non. Je pense que ça apportera beaucoup plus de bien que de mal. On va revenir sur ces arguments tout à l'heure. En tous les cas, c'est ce dont je me suis rendu compte. Moi, à la base, j'avais pas forcément d'a priori pour l'un ou pour l'autre. J'aime bien aussi avoir des vieilles boîtes et tout, si ce n'est que ça prend un peu de place et qu'on a toujours les mêmes problèmes à la con matériels. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de points positifs quand je me suis mis à lister des trucs, et je pensais pas en trouver autant en fait. Mais on reviendra dessus donc tout à l'heure. Et la dématérialisation de support m'intéresse d'autant plus que justement par rapport à ce dont on venait de parler, c'est-à-dire console unique, etc., il y a aussi énormément de points positifs qui passent par le fait d'avoir une plateforme unique et qui, à mon avis, n'est possible que si on dématérialise la plateforme elle-même. C'est-à-dire que ça devient plus un vecteur d'entrée dans les maisons qui coûte très cher, avec du hardware coûteux, chiant, où il faut toujours faire de la RD, etc.
Mais console unique peut aussi vouloir dire.
Il y a des points négatifs aussi, hein.
Ouais. On reviendra dessus, mais en tout cas moi je fais partie de ceux qui ont eu leur vision un peu chamboulée, un peu comme toi Julo. C'est pas que j'aimais pas ou que j'avais peur ou que je ne voulais pas du dématérialisé, c'était que je m'en fichais totalement il y a encore même un an.
Mais
la consommation sur DVD, Blu-ray m'allait très
bien.
Voilà,
toi c'est la VOD qui t'a fait changer d'avis.
Et la VOD, oui clairement, la possibilité, en fait c'est tout con, ça vient d'une anecdote débile, c'est que mon vidéo 7 en bas de la rue a fermé. Et je ne pouvais plus louer de DVD.
Comme tant
parce
de
que ça fait 3 ans, je crois que je n'ai pas acheté un seul DVD. Je ne les pirate pas, je vais les louer et j'allais les louer chez ce petit vidéo 7. Il a fermé, je me suis retrouvé dans la merde parce que par contre je regarde beaucoup de films. Et soudainement, bah, j'ai vu que sur mon truc numéricable à la con qui marche très mal, merci numéricable, j'avais quand même grave de films en VOD et qu'après sur la Xbox aussi et sur la PlayStation 3 aussi. Et bah soudainement, je me suis rendu compte que c'était d'une simplicité déconcertante et qu'effectivement, hormis ce gros problème qu'est la VO, VOST, etc., ça c'est vraiment une carence, la facilité était telle que du coup, ça m'a poussé à m'intéresser un peu plus au dématérialisé, chose que j'avais déjà fait très aisément avec le MP3 finalement, avec l'iPod, etc., même si j'achète encore des CD.
C'est rare quand même, non ?
Bah je sais pas.
Faut que ça soit des beaux trucs.
Oui, c'est ça. Voilà. Des trucs que j'aime beaucoup, j'aime bien les avoir en boîte pour me faire effectivement une collection. Mais ça, voilà. Et acheter en jeu, je l'ai vu pour des vieux jeux, les Metal Gear, Vagrant Story, Shuikoden qui sortait sur le PSN et j'en ai fait d'autres sur.
Mais ça c'est pareil, on va revenir dessus parce que moi je trouve ça très bien que ce soit disponible, mais ça m'emmerde profondément de devoir repayer des jeux que j'ai dans l'armoire juste
sûr.
À côté.
Ça c'est sûr. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que l'achat un peu plus impulsif, immédiat, le fait de voir, le fait de flâner sur un store dématérialisé, de faire oh putain, je l'ai pas. Ah, c'est pas très cher.
La facilité d'acheter,
la facilité,
c'est la puissance de la flemme.
Moi, je dis que c'est ça le piège aussi, quoi. Parce que
mais qu'il soit un piège,
au bout du compte, tu vas acheter 20, enfin, tu vas louer 20 films, mais t'auras dépensé combien ?
La même chose que chez Vidéo 7.
Pour les films, c'est pas plus cher.
Oui, mais après, il y a la démarche d'y aller. Là, c'est vraiment la facilité, quoi.
La flemme qu'on a tous en nous,
c'est
hallucinant.
En tout cas, je trouve que, en tout cas, dans mon cas, je suis victime très consentante. C'est-à-dire, je sais, je paye le truc, je le garde pas, que machin, mais je m'en fous.
Ah, c'est vrai que c'est quand même.
Il y a
le côté pratique qui est génial, bien sûr. Attention,
c'est une sacrée
démonstration
qu'ils ont fait cette année, et notamment sur PS3 avec la PSP. Je sais que là, pour raconter ma life, il y a ma sœur qui est venue l'autre jour et je lui ai montré justement le. Elle adore le cinéma. Je lui montre le Video Store sur PS3. Ça génial. Après je lui dis attends, mais tu sais quoi, c'est la même chose sur PSP. J'allume la PSP, je dis voilà, je choisis mon film, je le télécharge, je le regarde dans le métro demain, tu vois. Oh putain, c'est génial, il faut trop ça et tout. Il trouve ça génial. Je dis attends, encore mieux, tu peux le télécharger sur la PS3, appuyer sur triangle et le balancer dans ta PSP comme ça, enfin tu vois, et tu peux faire ça avec tes DivX, Lego.
ça existe.
Des films de ta fille et
non, enfin voilà, des films que tu as fait avec ta caméra, etc.
Bah, Gameblock TV. Tu as la chance de pouvoir
ramener Gameblock TV, tout ce que tu veux, voilà. Donc elle a trouvé ça juste voilà, c'est la démonstration, voilà.
Démonstration.
En tout cas, il y a beaucoup d'esprits qui sont en train en tout cas d'évoluer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr pour l'instant, c'est une vérité, c'est que majoritairement, le dématérialisé, en tout cas en 2009, reste orienté un peu sur le casual gaming, c'est-à-dire des petits jeux qu'on picore, qu'on, qu'on consomme rapidement.
Pour plusieurs raisons d'ailleurs.
Voilà.
Mais c'est pas forcément des raisons
de contenu. Justement. Parce que tous les gamers aujourd'hui sont encore trop attachés au côté physique et du coup ils...
Non, je pense que, enfin moi personnellement, je pense que le, les deux choses essentielles qui font que c'est plutôt du casual, c'est que ce sont des téléchargements plus rapides, parce que c'est souvent des jeux qui prennent tout simplement moins de place que des vrais gros jeux AAA, et ils sont aussi moins chers. La plupart, c'est des jeux à 10 euros.
Il y en a beaucoup qui sont gratuits aussi. Hein. Quand tu vas sur le portail d'Orange, ils ont un catalogue gigantesque et tous les jeux sont gratuits quasiment. Évidemment, c'est des tout petits jeux. Hein. C'est comme ceux que, auxquels on peut accéder sur téléphone portable. Il y a beaucoup de démos, etc.
Et, c'est
et
un
les
appât,
jeux sont très très peu chers.
C'est une sorte d'appât parce que quand tu regardes sur iPhone, par exemple, au départ, tu télécharges que les jeux gratuits. Puis au bout d'un moment, tu te dis putain, c'est quand même génial ce principe. T'as envie d'en télécharger plus. Et puis tu dis oh, putain, 79 centimes. Voilà.
C'est justement le côté génial de la dématérialisation. C'est que justement, tu peux faire une petite démo juste avant et acheter le jeu à la fin du niveau qui s'arrête.
Xbox Live Arcade, c'est pareil.
Mais voilà, tu as complètement raison. Hein. On parlait de la PSP Go tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a eu le phénomène iPhone.
Bien sûr.
Parce que c'est pas la machine, parce que la PSP Go pour l'instant a un succès qu'on qualifiera de confidentiel pour l'instant. En revanche, l'iPhone, c'est
évident,
un raz-de-marée. Et ça habitue des générations d'utilisateurs à, d'une touche sous le pouce, à avoir l'objet qu'ils
n'importe
veulent.
N'importe où. C'est la différence fondamentale. C'est que grâce à la 3G, tu peux consommer n'importe où. N'importe où, et comme tu te trimbales toujours avec ton téléphone.
Et franchement, personne s'en plaint.
Ah bah non.
Parce que ces choses n'existaient pas avant. Elles ont été créées pour l'iPhone dédié. On s'en foutrait d'avoir des petites boîtes avec une application, je sais pas, marmiton.com ou un jeu.
Ta petite cartouche sur
ton. C'est complètement débile. Alors que là, on l'achète, bim, ça se met dans le disque dur et puis on est très content.
Mais quand tu dis que c'est l'iPhone qui a fait démarrer un peu le tsunami, c'est clair et net. Parce que la PSP Go et surtout même la DSi, c'est vraiment pour répondre en fait à la menace de l'iPhone directement. Quoi. C'est un nouveau modèle économique, un peu comme iTunes avec la musique. Enfin voilà, c'était Apple déjà.
Et c'est d'ailleurs étonnant de voir que Nintendo, quand même, prolonge pas vraiment l'effort à ce niveau-là.
Bah écoute,
on verra la prochaine génération.
On verra sur la prochaine génération, si tu vois ce que je veux dire, parce que c'est.
Eux, ils font pas forcément moins d'argent avec la distribution traditionnelle qu'avec la distribution dématérialisée. C'est des économies et des redistributions, plus exactement, de thunes qui profitent plus aux éditeurs tiers qu'aux constructeurs.
Et puis à la base, l'iPhone, c'est quand même archi grand public. Hein. C'est un téléphone. Hein. Donc c'est devenu une plateforme de jeu après. Quoi. Ah, mais
le truc surpuissant avec l'iPhone, c'est que voilà, t'as une antenne 3G et donc tu télécharges d'où tu veux. Ça, il n'y a pas sur DSi et sur PSP Go. C'est le truc qui leur manque d'ailleurs. Ouais.
Carrément, qui sera probablement corrigé dans les semaines et mois à venir.
Tout à fait.
On en reparlera plus du côté d'un certain mois de juin. Allez, on va passer au cœur vraiment de ce podcast, les différents arguments, un petit peu la bataille, des positifs, des bénéfices et des désavantages du dématérialisé ou voire même du tout dématérialisé. Comme on est sympa, on a commencé de décider par les bénéfices, histoire de voir un petit peu qu'est-ce que ça permettait d'apporter en plus-value. Qui veut commencer ? Il y a un des premiers points qu'on a pu lister, et c'est tout con, vous en parliez tout à l'heure, Traz et Julo, mais c'est vrai que mine de rien, ça prend de la place, et le dématérialiser, c'est un vrai gain d'espace. Et une petite dédicace au président de Microsoft France, une certaine vidéo où il essayait de faire des grands calculs pour savoir combien de places on gagnait, de mètres carrés on pouvait gagner avec le dématérialisé. Je crois qu'il est toujours en train de calculer. François Ruot, si tu nous écoutes, merci. Donc le gain de place, c'est
un
vrai avantage.
Tout le monde dit on n'a plus de livret, on n'a plus de boîte et tout, c'est dommage. Mais d'un autre côté, ça te fait ça de moins à trimballer quand tu déménages. Ça, c'est pas...
Je m'en fous, j'ai un sous-sol.
Sale égoïste.
Il va déménager en
sous-sol. Moi, j'habite à Paris, monsieur. J'ai pas de pièces pour remettre des jeux dedans.
Mais bon, voilà.
Mister P dit très judicieusement à l'adresse de Traz, les caves, ça se remplit.
Bien sûr.
Donc pour l'instant, il te reste de la place, mais un jour.
Moi aussi, j'ai une cave.
Fais gaffe parce que des fois, les caves, ça se remplit de flotte. Et là,
c'est le drame.
Et là, j'en ai marre.
Donc, gain d'espace, ça vous paraît important, pas important ?
Bah quand tu vis dans une zone où l'urbanisme est pas au top oui, et que les loyers sont chers et tout ça, et la place, oui, bah oui,
je crois pas que
t'as pas des parents qui peuvent stocker tes jeux.
Mais je pense surtout par rapport au Japon, qui a là pour le coup un vrai problème de place, c'est-à-dire que même si une console est trop grosse, ils l'achètent pas, tu vois. Donc
le problème, il est comment?
Vrai.
Merci.
Pourtant, il y a des super collectionneurs là-bas, hein, comme quoi.
Bah oui,
tu
évidemment.
Tu peux avoir un peu de place et.
Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils jouent beaucoup en mobile, hein, mine de rien. Ils sont on the go tout le temps. Donc il n'y a pas que nous dans l'affaire.
Je sais pas si c'est un vrai argument, le gain de place, très franchement.
C'est pas le plus important, c'est franchement, mais ça en fait partie.
Tu dis à quelqu'un, tu préfères cette version collector sublime, machin, etc., ou la version dématérialisé, bah, qui t'apportera le même jeu, mais t'auras pas tout ça, tout ça.
Nous, on est très attachés au collecteur parce qu'on est très attachés aux médias, mais la plupart des gens consomment les jeux comme d'autres peuvent consommer des films.
C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui voient leurs étagères se remplir de poussière et d'objets, de CD, de DVD, de machin, etc., que finalement ils utilisent une fois tous les 4000 ans. Et c'est vrai qu'une DVD tech, une Blu-ray tech, une CD tech, enfin, et une ludothèque, si elle est imposante.
C'est sympa.
Puis même.
Ça peut faire de l'espace quand même.
Ah, ça fait de l'espace. Moi je reviens sympa à regarder, moi.
Oui,
c'est comme
une bibliothèque, quoi.
Enfin, je sais pas. À Paris, le mètre carré, ça vaut en moyenne 4 700 €. Bon, bah imaginez si vos DVD tech, vos machins, etc., prennent 6 mètres carrés, et bah ça vous coûte quasiment 30 000 €.
Ouais, enfin, c'est un calcul un peu, c'est un peu fallacieux, si
certes,
je peux me permettre.
Mais je trouvais que c'était à la fois un peu maladroit et à la fois assez
tellement
juste.
Mignon.
Mais non, mais c'est juste finalement.
Mais t'imagines si
tout cela, on a de l'espace vraiment pris et qui coûte de l'argent, quoi, et dans lequel on peut pas vivre.
Mais tu sais qu'acheter des jeux vidéo, ça coûte de l'argent aussi.
C'est vrai.
Voilà.
T'es pas con.
Et si on ne dépensait pas cet argent pour les jeux vidéo.
Il y a un autre côté pratique aussi, parce que je reviendrai toujours à la flemme quand on parle de dématérialisation, mais se lever, bien ranger les CD dans les boîtes, remettre les boîtes au bon endroit.
Oh
place,
non, je rêve, attends.
Mais
oui, moi aussi j'ai déjà été chez toi, Raon.
Tu m'étonnes.
La première fois que j'ai été chez Raon, il faut savoir, j'ai eu peur parce que j'ai.
Oh, bah, Indies Blob à côté de la télé.
T'as marché sur combien de trucs avant d'arriver dans le salon?
Je pouvais pas marcher en fait en levant les pieds. En fait, j'ai d'abord posé mes pieds et ensuite je les faisais traîner, tu vois, pour passer en dessous des cartouches.
C'est comme dans Indiana Jones, tu sais, quand c'est la nuit et qu'ils marchent sur les trucs, ils font c'est quoi, et qu'ils allument la lumière et qu'ils découvrent ce que c'est.
Voilà. Et bah moi j'ai.
C'est bon, vous avez fini.
Et c'est là que je peux finir ma phrase. C'est là que j'ai marché sur Zelda Minish Cap et je t'ai dit oh, je l'ai pas, je peux le prendre. Ça fait ouais, vas-y, prends-le.
Vas-y, il est parti depuis 6 mois.
C'est une autre conception de l'open bar.
Merci, Raon. Voilà.
Bon, on a compris.
Mais mine de rien, voilà, tu sais pas forcément machin, ou un soir t'as envie de jouer à tel jeu, et puis finalement.
Et bah tu te baisses.
Tu prends une pelle et voilà.
Tu creuses.
Tu t'assois dans ton canapé, cas pratique. Tu dis finalement, je vais me faire une partie d'un autre truc. Au bout d'une heure, t'es obligé d'éjecter ton disque, le ranger dans sa boîte, le remettre dans son truc, reprendre l'autre jeu, etc. Alors que si c'est sur ton disque dur, tu reviens juste sur ton dashboard, tu passes à l'autre jeu. C'est con, mais ça fait gagner un petit peu de temps. C'est plus simple. T'as pas besoin de lever ton cul. Ça fait partie de
et on va tous grossir.
Oui, ouais. Bah, on va se retrouver.
On bouchera plus son cul pour aller au magasin du coin.
Ça va être comme dans Wall-E, on va tous être énormes.
En tout cas, tout à l'heure, justement, Trace t'en parlait, gain d'espace, moi je disais, ça peut faire gagner un peu d'argent, c'est sûr que je pousse le bouchon un peu loin, mais bon. Et tu disais, oui, mais bon, on achète les jeux et ça coûte cher. Bah justement, le dématérialiser, normalement, de manière supposée, on a du mal encore à le vérifier aujourd'hui, mais enfin bon quand même, c'est censé faire baisser un peu les prix, parce qu'il n'y a plus de stock, il n'y a plus de jaquettes, il n'y a plus tout ça qui fait que ça gonfle les prix.
Moi j'ai l'impression qu'il y a deux mondes à ce niveau-là.
Il y a plus de distribution.
Steam. Moi je crois qu'il n'y en a qu'un seul.
Il y a Steam et il y a le reste. Et en fait, Steam et peut-être autres services que je connais pas sur PC, mais en tous les cas, sur les consoles,
attention,
on se fait arnaquer gaiement.
Parce que Steam, Steam ne propose pas forcément les jeux qui viennent de sortir bien moins chers. Ce sont les jeux qui sont déjà sortis un certain temps qu'ils font baisser et dont ils relancent la vie.
Des promos,
donc,
quoi.
Voilà, c'est pour ça
le dématérialisé, c'est génial. Parce que justement, exactement, ça relance la vie d'un jeu,
et
comme
ça,
tu dis.
Ça bien, 3-4 n'existe pas.
3-4 mois après avoir lancé le jeu, c'est génial. Ça.
Typiquement, dans ces points positifs, effectivement, prenons Mirror's Edge, par exemple, ou n'importe quel autre jeu qui s'est fait étouffer dans la distribution traditionnelle
dans les linéaires, etc.
Voilà, il a sa deuxième chance.
Il a sa deuxième chance. D'un autre côté, l'offre devient très vite pléthorique sur le net aussi, enfin en dématérialisé aussi, et du coup, il faut que les services arrivent à mettre en avant régulièrement d'autres jeux aussi. Enfin, le problème peut se proposer aussi en dématérialisé. Donc,
Mais est-ce que vous pensez pas quand même qu'ils vont nous refaire une deuxième fois le coup du quand on est passé de la cartouche au CD? Non, vous inquiétez pas, pour l'instant c'est un peu plus cher parce qu'on a 2-3 trucs à régler, mais après bon, ça coûte tellement moins cher et ils l'ont jamais fait. Est-ce que vous pensez quand même le dématérialiser, normalement à terme ça devrait baisser?
Non.
Merci
non, jamais.
J'avais envie d'apporter un peu d'espoir.
Ça pourrait permettre à des développeurs indépendants de proposer des jeux moins chers, mais pour tout ce qui est des gens qui sont traditionnellement, à mon avis, tous les gros éditeurs qui font des blockbusters et tout ça, je pense pas qu'ils réduisent en tous les cas pas énormément le prix des jeux pour l'utilisateur final. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces économies là qui sont liées à la distribution, etc., peuvent être redistribuées aux développeurs et à d'autres acteurs qui pour le moment ne touchent pas grand chose sur les jeux.
Mais alors pourquoi ils peuvent pas baisser? Est-ce que c'est à cause de la distribution qui
c'est pas qu'ils peuvent pas, hein.
Mais ils veulent pas, ou
je pense qu'ils veulent pas. Bah écoute, on a l'habitude d'acheter un jeu entre 50 et...
Ah bah oui, ça c'est clair.
Bah ça pour l'instant oui. Alors au jour d'aujourd'hui, le fait que les jeux soient aussi chers par exemple sur Xbox Live, sur le marché Xbox je veux dire plutôt, les jeux 360 par exemple, un Assassin's Creed coûte plus cher en fait en dématérialisé que si tu vas l'acheter en retail. C'est... Évidemment c'est honteux, mais ça effectivement comme tu le disais, c'est la distribution qui fait pression. Ouais. Donc c'est un problème politique.
Il faut plus que pression, c'est même limite scandaleux quoi. Parce que quand ils te disent, évidemment, ça ils vont pas te l'avouer, mais quand ils te disent, alors vous mettez pas ce prix-là pour ce jeu-là en dématérialisé, sinon on vous prend que 10% en linéaire de ce jeu-là qui pour vous est un super
votre prochain jeu sur le Kickstarter,
bah, tant pis pour vous. Quoi.
Quand t'es la première
aujourd'hui, ils peuvent se permettre de dire ça, mais dans 5 ou 10 ans, peut-être pas. Peut-être plus.
Dans 10 ans, ça m'étonnerait.
Donc ils vont devoir s'adapter aussi.
Bah oui, ah oui,
ils vont devoir disparaître.
Non, ou se réadapter effectivement avec peut-être des ventes.
Bah des points en des passant coupons, par eux.
Ou avec des clés USB de 600 gigas. Des choses
comme ça. C'est d'ailleurs ce que propose Sony, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette espèce d'affrontement entre Micromania et Sony.
Sur la PSP Go, oui.
Voilà. C'est la guerre. Et Sony qui répondait, bah oui, mais pour répondre aussi un petit peu à ça, on met en vente, bon, chez les Micromania, les Games et les compagnies, des coupons de chargés de 10, 20, 50 euros qui permettent après d'acheter en dématérialisé. Enfin, c'est de l'argent virtuel quelque part.
Bon, ouais, mais la marge.
Dépensé bien réellement, mais.
A priori, la marge est pas énorme non plus pour, pour la distrib, mais bon. Enfin, je sais pas exactement, mais le fait est que de toute façon, il y a deux choses à voir. C'est que, un, le dématérialisé, comme il n'y a plus d'objets, c'est juste de la copie de formation. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que naturellement, la plupart des gens se disent ça vaut moins. Ce qui est logique, hein, il n'y a pas d'objets.
C'est
y a
super
pas
logique, surtout.
Bah, oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais les économies qui sont liées. Alors, il faut quand même aussi remettre les choses dans le contexte. Même si c'est considérablement moins cher que la distribution traditionnelle, distribuer en numérique, ça a aussi un coût. Il faut héberger des serveurs, il y a de la bande passante, il y a des choses à faire. Bon, mais c'est vraiment négligeable. Quoi qu'il en soit, moi je suis persuadé que le prix des jeux ne baissera pas ou très peu, parce que nous avons l'habitude d'acheter les jeux ce prix-là, déjà, et que c'est plus une habitude à changer pour eux qu'une vraie étape économique, et qu'ils auraient peut-être beaucoup plus intérêt, vu l'explosion des prix, des coûts de développement, à redistribuer cet argent gagné aux éditeurs et aux développeurs. C'est-à-dire prendre la part de la distribution traditionnelle qui est économisée aujourd'hui et mieux redistribuer la thune.
Oui, mais parce qu'aujourd'hui, est-ce que les joueurs quand même à un moment vont pas crier au scandale ?
Ben, ça dépend. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas forcément ultra négatif que le prix des jeux baisse si cet argent est réalloué pour qu'on ait de meilleurs jeux.
Mais quand même, enfin bon, là c'est prendre un petit peu d'avance sur les arguments négatifs, mais puisqu'on en parle et qu'on parle de l'argent généré ou pas par ces jeux dématérialisés, si dans le même temps tu payes le même prix qu'une version boîte, etc., et que dans l'autre temps, avec cette fameuse version boîte avec laquelle tu avais plus d'avantages, un leaflet, une jaquette, l'objet, et qu'en plus tu pouvais revendre.
Oui.
Et que tu avais le marché de l'occasion, si tu tues ça, comment tu peux justifier derrière de vendre le même prix quand même ?
Tu peux pas. Tu peux pas.
Et comment tu ne peux ne pas t'aliéner les joueurs sans faire basculer totalement au dématérialisé et là et faire t'as pas le choix.
Bah les joueurs il y a longtemps qu'ils en ont eu ras-le-bol de ce truc là hein. C'est pour ça qu'il y a des pirates hein. Malheureusement le mec se dit c'est peut-être un mauvais argument hein, je suis d'accord mais
il y a peut-être certains pirates qui le font comme un acte militant mais faut quand même pas non plus exagérer ou
qui le font comme un acte de connard
voilà c'est surtout ça
hein.
Mais la plupart c'est quand même ça. Mais enfin, en tous les cas, ceux qui téléchargent, la plupart c'est pas pour militer, hein. C'est juste pour jouer, c'est tout.
Pour gratuit.
Bref, en tous les cas, pour répondre à tes questions, je pense que tu ne peux pas. C'est ce qui fait que quelque part, pour le moment, ça décolle pas aussi rapidement, même si ça décolle bien, que ça pourrait.
Au jour d'aujourd'hui, effectivement, ça me paraît improbable et impossible.
Et effectivement, ils peuvent pas non plus dire basta, on oublie complètement l'industrie traditionnelle et on passe au tout dématérialisé du jour au lendemain. Déjà parce qu'ils vont se couper de beaucoup de gens
qui n'ont
pas
internet.
Mais
du coup,
est-ce que du coup, c'est même possible d'envisager qu'un jour on soit au tout dématérialisé ?
À condition qu'il y ait au moins 80 à 85% de taux de connexion dans un pays. Enfin, sur un marché. Parce que c'est ça.
Ça veut dire des pays dans lesquels on vendrait les deux, des pays dans lesquels on basculerait totalement au dématérialisé. Est-ce que ça c'est envisageable ou c'est de la science-fiction totale ?
Oh bah non, pour moi c'est envisageable. Ah, sûr, après, c'est juste une question de temps. C'est, hein. C'est quand est-ce qu'on sera prêt pour ?
C'est évident.
Mais il va peut-être y avoir une phase comme actuellement sur PSP finalement. Aujourd'hui sur PSP, tout est vendu en dur et en dématérialisé.
Oui, c'est possible. Oui.
Voilà, tu proposes les deux trucs.
Mais c'est pour ça qu'ils font
temps,
ça d'ailleurs, je pense. C'est pour être prêt déjà maintenant et puis attendre patiemment que quand ça bascule,
ils réduisent
les quantités qu'ils ont à produire en dur et puis basta.
Qu'on soit effrayé ou pas, c'est quand même un bouleversement du marché hein, dans les années à venir auquel on doit s'attendre.
Ouais.
ça va changer énormément
mais
de choses.
Mais moi, je pense que ça viendra doucement.
Sa relation au jeu, sa relation à la boutique aussi, dans lequel on pouvait aller parfois pour avoir un conseil ou pas.
Oui, alors on était sur les points positifs, justement. Il y a l'aspect donc, de proximité que tu soulèves, c'est-à-dire parler à des vendeurs, machin, etc. Mais je ne suis pas certain que tout le monde ait une très bonne expérience avec les vendeurs de jeux vidéo. Ça dépend des boutiques.
Oui. Moi, quand j'étais petit, je me faisais arnaquer avec le sourire. J'avais pas le choix non plus. Tu vois,
d'un autre côté, en dématérialisé, tu as accès à des trucs comme, on va reparler encore de Flower, de Bread, de tous ces jeux-là qui, autrefois, en boîte, n'auraient pas, peut-être pas eu de chance ou ne seraient juste pas sortis parce que dans leur économie, c'était pas possible pour les développeurs de trouver leur compte.
Bah justement, dans ces arguments plutôt bénéfiques, il y a deux choses. Hein, la place des petits jeux intelligents, c'est comme ça qu'on les appelait. Petits jeux, pas forcément par leur contenu, hein, mais plus par le petit prix ou par des aventures qui vont durer.
Qui surtout peuvent être aussi bons que des gros jeux.
Exactement. On pense, tu l'as cité, à Flower, il y a bien évidemment Braid qui nous a beaucoup touché, puis il y en a plein.
World of Goo, ça a été l'explosion là.
Et Machinarium.
Et c'est sûr que ces jeux-là, on imagine qu'il aurait été probablement plus dur de les faire sortir sur un circuit de distribution normal avec la boîte, la machin qui coûte plus cher.
Bah oui, parce que la distribution,
place surtout,
la distribution prend au moins 40% du prix d'un jeu en rayonnage.
Plus dans les 30 plutôt.
Ouais.
Entre 30 et 35, mais enfin, ouais,
une part.
En tout cas, une part pas négligeable du tout. Hein,
voilà, une portion congrue du prix global.
Énorme,
et
là, sur un des petits jeux, c'est même pas la peine.
Et il y a beaucoup de développeurs qui sont par exemple sorti un jeu à 29 euros en retail classique et qui se sont fait moins de marge via ça qu'en le sortant à moins de 10 euros
sur l'Xbox Live.
Sur le Xbox Live, voilà.
Ah bah non, mais c'est ça, on a même Denis Bourdin, vice-président de Load Inc., qui précise quand même que sur un jeu vendu à 29,90€ en magasin, il gagnait en gros, lui le développeur, 3,10€. C'est quand même pas beaucoup. Hein,
c'est rien, parce que t'as la part de l'éditeur, la part de la distribution, la part du marketing.
C'est 10%. Alors qu'avec un prix de vente de 9,99€ sur le même jeu hein, vendu sur Xbox Live Arcade, sa marge était nettement supérieure.
Oui. Donc on peut dire qu'il fait quasiment 50% de marge sur Xbox Live, alors qu'en boutique, il fait 10%. Quoi.
Là, t'as un cas d'école de ce qui est vachement. Enfin, de la dématérialisation agréable pour tout le monde, sauf pour la distrib. En gros, ils sont les seuls
qui sont
squeezés, mais forcément. Pour tous les autres, le joueur, le développeur, c'est que du bénéfice. Mm-hmm. Tu prends par exemple Steam, le modèle économique de Steam, quand tu vas faire développer ton jeu, distribuer ton jeu sur Steam, c'est Valve, donc les créateurs de Steam, qui prennent 40% des recettes, et toi, tu prends 60%. Mm-hmm. Basta! Il n'y a plus d'autre intermédiaire. Si tu es éditeur et développeur de ton jeu, c'est 60% de ta création qui te revient. Donc, c'est tout simplement des finances plus facilement assurées pour continuer à développer de nouveaux projets. Et c'est pour ça que pour moi, ça me paraît important que cet argent soit avant tout redistribué aux développeurs plutôt qu'entamé sur le prix finalement général qu'on paye pour les jeux. Non pas par rapport au prix que ça coûte en boutique, parce qu'effectivement, c'est pas normal que tu payes le même prix alors que d'un côté, t'as la boîte et tout et pas l'autre. Mm-hmm. Par contre, ça me dérangerait pas, moi, humainement, de payer 60 euros un jeu si je suis sûr que les 60 euros en question que je concède sur ma boîte et tout ça vont au développeur.
Bah, de toute façon, en plus, au niveau éthique, j'allais dire, c'est tellement plus juste quoi que.
Bah oui.
Je trouve ça tout à fait normal.
Enfin, ça dépend. Parce qu'après, il y a une prise de risque financier qui est en général l'attribut de l'éditeur. Et donc, c'est normal qu'ils prennent le risque financier et s'y retrouvent aussi.
Justement, on parlait des bienfaits pour le développeur et puis de cette question éthique. Il y a aussi la question du piratage. On l'évoquait il y a quelques instants. C'est vrai que, paradoxalement, il est beaucoup plus complexe de pirater des jeux en dématérialisé.
Bah, si c'est bien fait, oui, parce que comme de toute façon tu dois avoir un accès internet pour consommer du dématérialisé, tu peux plus facilement obliger la personne qui a consommé le jeu dématérialisé à devoir interroger un serveur pour assurer de la légitimité de sa version.
D'ailleurs, les joueurs qui trichent déjà, ne serait-ce que sur des trucs à la noix, ils se font pincer. Donc j'imagine même pas. Ouais. Enfin, je sais pas comment
ceci
techniquement
dit, sur
ça
PC,
serait possible.
Tu vois une version. Bon, Steam, c'est pas trop piraté, mais à partir du moment où t'as des données, t'as des datas qui font jouer, qui permettent de jouer à ton jeu en local sur ton serveur, tu peux le pirater. Le seul moyen d'empêcher le piratage, c'est que pour jouer au jeu, t'as une partie des datas nécessaires au jeu qui soit hébergée à l'extérieur.
Genre un World of Warcraft.
Ou par exemple, mais même sur un jeu offline, c'est possible. Tu peux avoir certains fichiers qui sont absents de ta machine et qui sont consommés au fur et à mesure que tu en as besoin pendant que tu joues.
Donc ça veut dire qu'avec OnLive, ça sera impossible de pirater.
Ah bah OnLive, il n'y a rien à pirater.
De s'incruster dans une partie comme
non,
ça gratos.
C'est
quoi.
Impossible. OnLive, c'est que du signal vidéo. Il n'y a rien chez toi. Il n'y a pas de jeu. Donc tu peux pirater le flux vidéo si tu veux et puis l'enregistrer, mais tu vas avoir une cassette avec toi qui joue, quoi. C'est tout. C'est complètement con.
Et par satellite, t'es sûr que tu peux pas?
Non.
Ah, d'accord. je voulais essayer, mais.
Sauf si tu es russe.
On en parlait aussi tout à l'heure, mais ça c'est vraiment un point sur le côté genre on gagne du temps, c'est plus pratique et du coup finalement c'est une expérience de jeu globale qui s'en trouve améliorée. C'est le fait de pouvoir potentiellement essayer sa démo, apprécier et d'un simple clic ou d'une simple validation,
tu débloques
le jeu directement et pas avoir à aller sortir chez soi.
Ça, c'est encore la flemme, ça. Ouais. Ça, c'est encore la puissance de la flemme.
La flemme. La puissance de la flemme. Mais ceci dit, c'est tellement bien d'avoir des démos quand même avant d'acheter un jeu. Parce que toutes les boutiques ne le proposent pas, hein, loin de là d'ailleurs.
Bah, la boutique en ligne de la Xbox.
Non, je parle de vraies boutiques en boutique. Magasin. Bah, il y en a quand même très 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 peu. Il y en a quelques-unes.
Live,
hein,
et là où, et ça, on l'a déjà dit, c'est là où ils ont été géniaux, c'est que tous les jeux sont testables sur toutes les Xbox.
Ça, c'est un gros plus du thématérialisé, effectivement.
Et donc, en réalité, tu télécharges même la version complète qui est bridée.
Oui, c'est ça, voilà. Ça dure une heure et puis hop.
On ne devrait pas recommander ça parce que les gens vont se faire un avis eux-mêmes, ils n'auront plus besoin de nous après.
Ouais.
Ah bah ça a été la mort des DVD de démo, par exemple,
ouais.
Ou des CD de démo.
Entre autres.
Voilà, parce que c'est vrai qu'à une époque c'était une grosse exclusivité des magazines. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus pratique d'avoir sa démo directement accessible dans sa console.
La pollution en moins, voilà. Hop.
Aussi, c'est sûr. C'est sûr ah bah, que le dématérialisé, c'est plus écologique. Hein.
On va dire
comme
oui.
Comme Ponag Proof.
C'est sûr.
C'est certain. Et puis alors, truc assez sympa et paradoxal finalement, c'était une petite crainte qu'on avait tout à l'heure en disant ouais, mais les gens vont aller plus dans les boutiques et donc moins discuter. Mais on l'a vu avec des petits jeux, une fois de plus, mais ça n'a rien de péjoratif. Le concept du bouche à oreille qui revenait. Mmh. Alors, de manière totalement numérique, parce que via les forums ou entre potes, etc. Mais Julo, ça c'est quelque chose.
Ça, c'est un argument qui me tient à cœur, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que, on l'a déjà dit plusieurs fois, ça aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, la machine est bien huilée. On nous abreuve de trailers, on sait tout sur les jeux au fur et à mesure, jusqu'à la sortie. Finalement, au moment où ils sortent, il n'y a plus grand chose. On sait que le jeu va être bien, pas bien, pourquoi et tout ça. Et puis là, avec les petits jeux en téléchargement qui viennent de petits studios, pas forcément des gros moyens, etc. Puis tu entends des vraies perles, quoi.
Mais grave.
Et bah, on les découvre. Parce qu'un pote qui joue aux jeux vidéo comme
t'as
nous,
téléchargé
dit,
ça
t'as vu ça, c'est génial. Pff, non, j'ai jamais entendu parler. Tu l'essayes, oh, c'est la révélation. Comme à l'époque quand on était môme avec les consoles 8 ou 16 bits.
Sauf
voilà,
que le
on
problème,
découvrait
c'est
les
que...
jeux au mois le mois comme ça. On disait, tiens, t'as vu telle nouveauté? Non, attends, je vais voir et tout.
Sauf
et en
que
plus, maintenant,
le
on peut les essayer.
Ouais. Mais sauf que tu peux pas le prêter, par contre. Avant, tu avais ta cartouche.
Tu peux pas le prêter, mais tu peux l'essayer.
Tu peux l'essayer.
Donc ça remplace. Et donc vraiment, je retrouve un peu cette ambiance là. Voilà, c'est-à-dire t'as tes potes qui jouent comme toi et puis ils te conseillent des trucs, tu leur en conseilles d'autres, ils peuvent l'essayer, ils découvrent, vierge de tout t'information à propos du jeu et tout ça, je trouve ça génial.
Ça pousse un peu à la curiosité.
Ah ouais complètement. Ouais. Quand tu disais tout à l'heure, on flâne dans la petite boutique, on regarde, attends, tu peux tout essayer, donc c'est génial. Tu vois, ah, tiens, c'est quoi ce truc? Oh, ça a l'air sympa, ça, etc. Donc,
et puis tu peux te faire des séances de navigation, browsing, machin, c'est genre tu te fous sur tel service. Tu regardes tous ces millions de jeux indie qui sont dans le truc, enfin des millions, j'exagère, il y en a plutôt des centaines, mais tu te dis, tiens, j'ai envie de me taper un petit jeu, et tu regardes les fiches comme ça, tu consommes ça comme si t'étais dans un rayon de supermarché, juste en regardant les jaquettes en fait. C'était un truc qu'on faisait plus, ça.
Ah ouais.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être par exemple dans un magasin de disques et puis juste de regarder les jaquettes et d'acheter un CD si la jaquette vous plaît. Mais ça, c'est un truc que tu peux faire facilement en dématérialisé aujourd'hui. C'est sympa.
Overflow, quoi.
C'est ça.
Bon, alors globalement, là on a fait à peu près le tour des arguments positifs, finalement il y en a eu pas mal. Est-ce que vous en avez un dernier à rajouter personnellement qu'on aurait oublié ou
Il y en a pas mal quand même. Il y a des petits détails, alors pour ce qui est de la consommation,
qui font la différence. Hein,
qui font, par exemple, à l'époque, souvenez-vous quand on devait acheter des jeux en import et tout ça, ça coûtait beaucoup plus cher, c'était pénible, etc. Pour les consommateurs d'import, mine de rien, par exemple, je prends l'exemple précis qui m'est arrivé récemment, j'ai racheté FF7. Sur le PSN, bon alors évidemment ça m'emmerde de l'avoir repayé parce que je l'avais quand même, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pu l'acheter au même prix que la version PAL avec les trades américaines au lieu d'avoir les trades pourraves de la version française.
Mais alors est-ce que ça c'est pas parce qu'on est un peu au balbutiement de dématérialiser, parce qu'on le voit par exemple sur iTunes où les marchés sont bien séparés hein.
Oui. C'est clair, parce que ça dépend du fournisseur de service, si zone ou pas.
On le disait tout à l'heure, aujourd'hui en part de marché c'est encore minime, tu vois, mais le jour où ils auront besoin vraiment d'avoir un contrôle plus strict sur les jeux, les territoires, etc., parce que ça sera devenu le plus gros de l'industrie, et ben là il y aura certainement des nouveaux verrous.
Et autant il était quelque part facile, même si c'était cher, de s'acheter une version import, il suffisait que ta boutique l'importe et d'avoir assez d'argent.
Fallait avoir des thunes, hein,
voilà. autant là, si le verrou il est lié à la carte bleue, t'auras beau faire ce que tu veux, tu pourras pas, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais en tous les cas, c'est possible techniquement de l'avoir comme ça, et ça existe aujourd'hui, et c'est comme ça que Sony a fait ses PSN. Donc c'est cool pour Sony. C'est vrai que c'est pas le même cas ailleurs, mais en tous les cas, c'est un exemple de point positif possible. Un autre truc que je voulais rajouter en positif, aussi, c'est qu'on parlait des vide-greniers et tout ça, et du rétro gaming un petit peu tout à l'heure. Mine de rien, les vieux jeux PC, il faut avoir un PC qui fasse tourner en rétrocompatible, il faut les vieilles consoles pour les vieux jeux, etc. C'est un peu plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, si ça t'intéresse de te pencher sur la culture du jeu vidéo d'il y a 10 ans, 20 ans ou plus, et bah, sur une Wii, par exemple, t'as accès à des tas de vieux jeux géniaux que plein de gens ne pourraient pas jouer c'est parce qu'ils n'ont pas les consoles.
T'as d'autres arguments ou pas derrière? Parce que sinon, là, je rebondis sur celui-là en négatif.
Vas-y, rebondis.
Alors,
on passe donc aux arguments négatifs.
On va défoncer la gueule, démortaliser. Question, là maintenant, très bien. Mais si tout n'est pas lié à un compte, si tu perds ton identifiant ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, cette fois-ci, tu changes ta console.
C'est la peur, en fait, de perdre ce que tu as acheté.
Mais moi, tous les trucs que j'ai achetés sur le store X ou le store Y, et j'en fais quoi?
Attends, il y a le docteur Rahan qui va te rassurer. Il va te faire une petite thérapie. Là, vas-y, installe-toi confortablement. N'aie pas peur.
Si mon disque dur crash.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si ta console meurt,
faut que tu me rassures moi aussi, parce que j'ai très peur. Enfin, j'ai très peur. Moi, c'est le truc qui fait chier dans l'histoire. C'est ça.
Parce que Julio, il est pas la question. Même technologiquement.
C'est à mon avis une peur qui est que tout le monde partage justement sur la dématérialisation.
C'est une peur panique.
La première chose que je dirais à ça, c'est que mine de rien, il faut pas oublier qu'on peut rayer et casser un CD aussi.
Non, moi non. Ça me jamais arrivé de toute ma vie entière.
Moi, je suis un maniaque, mec.
C'était sûr, tu veux qu'on
je te le jure.
Non, mais
à la rigueur, ma fille peut en choper un.
Un accident est si vite arrivé.
Attention, il est dans sa semaine bleue, je vous rappelle. Donc très zen et quoi.
Bref, donc c'est pas le Enfin, il peut t'arriver de perdre un jeu comme ça, bêtement, sans pour autant qu'il soit dématérialisé.
Et puis pof,
il tombe.
Eh bah merde.
Il était là et néanmoins, pouf, il a disparu.
Bah, il est où? Vous êtes effectivement tous des garçons très soigneux, donc vous ne risquez pas de rayer vos CD ni de les perdre.
Maniaque, je t'ai dit. Ouais. Je suis maniaque moi avec ça.
Effectivement, on peut toujours envisager. Voilà, t'as acheté X jeu sur tel service. Le service met la clé sous la porte.
Ils n'ont pas des jeux X.
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, d'une part, il faut savoir que le système des DRM, donc les protections électroniques, qui font qu'effectivement tes achats sont liés à ton identité sur un service, si ce service disparaît, en théorie, si
tu disparais avec.
En face, c'est pas un gros enfoiré, il peut faire péter les DRM. C'est-à-dire que les jeux, tu les as téléchargés, ils sont sur disque dur, tu peux continuer à les jouer même si le service est mort.
Si ta console crève derrière.
Mais c'est pareil que si tu pétais ton CD. Ou ta console d'ailleurs, parce que si ta console elle est morte, tu peux la faire réparer éventuellement et remettre tes CD dedans. Mais le disque dur, il faudrait que ton disque dur pète quoi. Pour que tu... le seul problème c'est que le disque dur c'est comme si t'avais un très gros CD avec tous tes jeux dessus en fait. Si tu claques ton CD ou si tu claques ton disque dur, c'est un problème. Voilà. Sauf que si tu claques ton CD, tu es obligé d'en racheter un. Alors que dans un service dématérialisé, tant qu'il existe toujours évidemment, tu retélécharges si t'as pété ton disque dur.
Ouais, tant qu'il existe toujours.
Voilà. Mais mine de rien, c'est
mais je pose une question débile en me mettant vraiment à la place là de Julien Chies qui a acheté des trucs par exemple sur PlayStation Network ou Xbox Live.
Ouais.
Quand je vais passer à la PS4 ou à la Xbox 712 000, est-ce que tous les trucs que j'ai téléchargés,
bien sûr,
je vais pouvoir les retélécharger pour les récupérer, ou est-ce qu'il va falloir que je transfère des trucs sur clé USB à chaque fois?
Je ne sais pas.
Mais
parce
ils vont
que
évidemment faire une compatibilité.
Mais ce serait con effectivement de ne pas prévoir le truc. Après, le souci de la rétrocompatibilité, il se pose aujourd'hui de la même façon pour les disques. Aujourd'hui, tu peux sur une PS3, si t'as acheté la bonne PS3 de l'époque, jouer à des jeux PS2 et machin, mais sinon c'est foutu. Tes disques, tu peux plus les faire tourner sur ta PS3, il te faut une PS2, quoi. Ou inversement, je veux dire, le problème.
Non, tu rachètes les jeux en dématérialisé.
Oui,
mais voilà, parce qu'il faut les proposer sur PS4 avec un nouveau filtre d'aliasing.
C'est le but, de toute façon.
Oh putain, 9,90€, ça a l'air vachement bien.
Exactement.
Les problèmes
en 3D.
Les problèmes que tu soulèves.
Ils vont tout nous revendre en 3D. Ils vont tout nous revendre en 3D. Ils nous ont déjà niqué, mais on ne le sait pas encore. Ah, mais oui, c'est sûr.
Les problèmes que tu soulèves ne sont pas l'apanage du format dématérialisé. Quoi. C'est ça le truc, en fait, surtout. C'est-à-dire que c'est des peurs qui sont justifiées, mais d'un autre côté aussi.
Oui, mais là, c'est un point négatif.
Je doute.
Tout le côté, genre, c'est pratique, c'est facile, tu peux en choper plein.
Mais
et
non,
tout.
C'est pas un point négatif. C'est juste le même problème que tu peux avoir avec le matériel.
Ça peut être un point négatif si toute ta console est complètement détruite.
Mais oui.
T'es d'accord?
Mais bien sûr, mais attends.
Il y a un incendie chez toi, t'as tout perdu.
Mais oui, mais non, parce que si le service est toujours là, tu rachètes ta console, tu le retélécharges. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que comme la propriété.
Cherche pas, là, on est passé dans les points négatifs, on va te défoncer la gueule.
Comme la propriété.
Tu as tort, à 200%.
Comme la propriété n'est pas celle de l'objet, mais du contenu, vous pouvez retélécharger le contenu sans repayer, alors que si vous aviez pété votre disque, il fallait le racheter.
Si donc, le service est
existe encore.
D'accord. Et donc j'en viens à la fin de la question.
Il faut m'acheter sur Steam en fait.
Il est toujours possible. Bah, il est toujours possible qu'un service mette la clé sous la porte. D'un autre côté, au jour d'aujourd'hui, on dégage déjà les grands services de jeux dématérialisés. C'est le Xbox Live, c'est le PlayStation Network, c'est Steam, c'est le WiiWare. Et personnellement, je doute que Nintendo ou Microsoft mettent la clé sous la porte de sitôt en tout cas. Ça m'étonnerait. On sait jamais, mais ça
avant que ces gars mettent la clé sous la porte au niveau hardware, personne ne s'en doutait vraiment.
Évidemment. Voilà.
Non mais attends,
on l'a vu venir.
Malheureusement, non, on l'a pas tellement vu venir.
On
l'a vu venir sur la fin, quoi. Mais
le seul,
c'était quand même sur cette, je veux dire, au début de cette génération, c'était impossible de s'imaginer que l'un.
On
disait
pas au bout. On digresse à fond.
Ouais, on digresse, c'est vrai.
Et ben là, on va redresser, je sais pas, recentrer le débat sur un point sur lequel il y a des personnes autour de cette table rouge là qui est incroyable, qui ne sont pas d'accord. La mort du rétro gaming annoncée avec l'arrivée du dématérialisé. Alors dit comme ça, certains vont dire bah non, parce qu'on n'a jamais eu autant accès aux jeux dématérialisés, aux jeux rétro gaming.
Ça c'est ce que je dis moi par exemple. Mais...
ça c'est la position de Raon. Mais il y a la position de Julo que je serais pas contre de rejoindre. C'est que effectivement l'un des aspects agréables du rétro gaming aussi, c'est cet aspect collection, c'est d'avoir l'objet.
Mais ça on en a déjà parlé. Bah,
c'est le vide grenier,
c'est la boutique. Mais on en a parlé tout à l'heure ça déjà.
On en a déjà parlé.
C'est effectivement l'aspect.
Eh bien merci d'avoir passé ce moment.
Très bien.
Mais c'est vrai que c'est important pour certaines personnes, ça fait partie du plaisir de la consommation et du plaisir du jeu aussi.
Mais même pour les consoles, enfin moi je conçois pas une console qui soit invisible.
Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé par rapport au rétro gaming quand même.
Moi quand on soit dans Minority Report là, avec nos mains poisseuses.
Bah moi tu vois j'en ai rien à foutre d'avoir une PS3 ou une Xbox 360 en dessous de ma télé. Non mais faut pas vous inquiéter. Nous on a l'habitude, hein. C'est pour ça qu'on fait plus attention. mais en soi, moi je m'en fous, je veux juste des bons jeux. Je veux avoir une belle console chez moi ou ma
femme. C'est beau une console, c'est beau.
Alors, le rétro gaming.
Julien Sarkozy.
L'une des choses très importantes dans le rétro gaming, je trouve que c'est le plaisir global, même du contact avec l'objet, mais pas juste de la cartouche, mais de la manette ancienne qui nous a permis d'y
celle
jouer.
Celle qui fait mal aux doigts.
Genre rétro gaming, pour moi, quand je jouais à la Super Nintendo, enfin, le meilleur rétro gaming, c'est pas d'y jouer avec une Wiimote ou une manette PlayStation sur mon écran HD, avec juste effectivement le vieux jeu, mais sur ma nouvelle console, mais plutôt de m'acheter, si j'ai les moyens, mais à la fois elles sont pas si chères que ça, une vieille Super Nintendo, de la brancher, d'avoir l'objet, et d'avoir la vieille manette dans la main, parce qu'elle a été conçue pour ça. Avec le dématérialisé, vraiment, là, on fracasse tout ça.
Ah bah c'est clair.
Sauf si tu fais partie du club Nintendo, que t'es au Japon,
et qu'ils t'envoient.
Et que tu peux avoir la Mega Drive.
Je crois que c'est disponible aussi en manette USB.
En petite version, ouais.
Je sais pas, mais
avec ses boutons. Non, mais en gros, bon, si on arrive à la console unique plus tard, etc., on va dire que nos enfants et nos petits-enfants, leur rétro gaming à eux, bah, il sera transparent, quoi. Ce sera juste, ils joueront à des jeux qui sont vieux.
Oui, mais est-ce que.
Mais il n'y aura pas d'affect un objet.
Je suis vachement d'accord avec vous j'ai cet aspect nostalgie.
Genre, t'es pas du tout d'accord avec nous.
Mais si, je ne jouerai jamais à un jeu Neo Geo autrement que sur une borne ou avec mon stick cartage.
Voilà, on est d'accord.
Mais faut se rendre à l'évidence, les gars, les générations là et ceux qui suivent.
C'est vrai que je suis d'accord aussi pour ces générations là, ils en ont rien à foutre.
Je pense que
on est tellement de l'époque aussi que on est quelque part vachement nostalgique, même si on n'ose pas l'avouer. Hein, c'est évident.
C'est pas pour ça qu'il faudra avoir peur de la dématérialisation, parce que ces circuits-là existeront toujours entre nous et il y aura toujours ces occasions et ces consoles, on les chérit, on les garde et on les a.
Et quand on sera plus là?
Eh bien, on sera plus là.
Voilà. Nos enfants feront un gros vide-grenier, ils se débarrasseront de tout ça et voilà.
Ouais. Mais du coup, ces conneries là qui gardaient papa là,
il y aura toujours un marché parallèle.
Alors par contre, une chose qui est sûre, c'est que le dématérialisé signe la mort de l'occasion.
Oui, alors par contre, c'est un vrai problème.
Là, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est plein de on supprime un circuit de distribution, on supprime des sortes de revenus supplémentaires pour les joueurs qui pouvaient justement bénéficier de vendre, par exemple, leur vieux jeu passer à la nouvelle console ou de nouveaux jeux, etc.
Attends, mais il y a même des jeux.
Et qui réduisaient.
Tu achètes en occasion et tu revends après. Enfin, je veux dire, pour les gens qui n'ont pas une thune, quand même, il y a un moyen de jouer.
Ouais.
Et là, il n'y en aura plus.
Ah, plus.
Et c'est pour ça que, pour revenir par rapport au prix des jeux dématérialisés, par rapport au prix d'un jeu neuf, en théorie, si on voulait vraiment foutre une équation simple là-dessus, il faudrait que le prix du jeu dématérialisé coûte le prix du jeu neuf moins ce que tu aurais pu le revendre à l'occasion.
Oui, mais c'est marrant ce que j'étais en train de me dire. Pourquoi il n'y aurait pas ça? Mais c'est impossible.
Attends,
en fait.
Tu peux inscrire cette formule au tableau?
Alors, prix de machin moins prix de bidule.
Mais ça fait un prix très très bas. Hein.
Boutiques rachètent pas très cher les jeux d'occasion.
C'est repris une quinzaine d'euros à peu près.
Bah oui, mais ça si
sur un jeu à 60 euros, on va dire, tu supprimes déjà tout le packaging, etc. Bim, mais t'en fais 50 euros, moins 15 euros.
T'en rebalances 4 et ça y est, t'as un jeu neuf.
30 euros, deux fois moins cher quasiment.
Ouais, quasiment. Enfin, ouais, enfin.
Mais ça, on n'y est pas. Hein.
Non, non, on n'y est pas encore, et puis on n'y arrivera pas, je pense.
Mais en fait, quelque part, les jeux d'occasion sur le dématérialisé, c'est.
Mais c'est ce qui
aussi. C'est les offres de prix qu'il y a 6 mois après, quoi.
Ça, c'est les promos. Oui, mais qui existent déjà sur le format physique. Hein.
Oui. Mais c'est vrai que l'utilisateur même ne peut pas les revendre.
Non, l'utilisateur.
Ça serait bien qu'il y ait un truc comme ça. Et le mec, il leur vend 1€.
C'est-à-dire de concéder tes droits.
Est-ce qu'il a le droit de faire ça, je crois pas.
Bah, la réponse à ça, c'est la location de jeu, en théorie.
C'est-à-dire oui, voilà, c'est ça, exactement.
Au lieu d'acheter un jeu, tu vas le louer et après.
Mais moi, je pense que c'est le vrai avenir. C'est comme
la location, bien sûr.
C'est, on va louer des jeux et une fois qu'on l'aura fini, tu garderas tes sauvegardes et si t'as envie de le redire jouer, de revoir. Clac,
parenthèse.
Je re-shop le jeu, je le reloue.
Ouais. Parenthèse sur les sauvegardes, je ne comprends pas, et on s'interroge tous ici d'ailleurs là-dessus, pourquoi Microsoft, Sony ne font pas encore de l'hébergement de sauvegarde.
Qu'ils ont pas le temps.
Alors c'est ce qu'il y a de moins lourd dans tout ce qu'on peut stocker sur un disque dur. Hein. C'est vraiment que dalle, hein, les sauvegardes. Il faut le faire, monsieur Sony,
vous
monsieur
nous entendez,
Microsoft.
Voilà, alors on va chercher notre plus beau timbre, hein, et demain on va envoyer.
On va y voilà.
Exactement.
Voilà.
Tu veux dire prendre notre prêt-à-porter,
plus belle plume.
Mais ouais, c'est vraiment ça bouleverse pas mal de choses. Ça c'est généralement une phrase de transition.
C'est le vrai. C'est le gros
sujet. Voilà.
T'as raison, c'est probablement le plus gros point noir de la dématérialisation, c'est l'impossibilité de partager ton contenu avec d'autres personnes, soit en échangeant tes jeux, soit en les prêtant, soit en les revendant.
Et le dématérialisé, est-ce que c'est pas aussi un peu la mort de tout ce qui était player choice, game platinum, etc.
Bah non, parce que la game platinum, ça va être des promotions
c'est
supplémentaires.
C'est les promos, effectivement.
Mais non, mais les promotions existaient déjà. C'est-à-dire que vous allez n'importe où. Mirror's Edge, un mois après son lancement, il était en promotion.
Mais maintenant, ils le vendent parce qu'ils ont des stocks qui ont été faits et qui doivent bien écouler et qui ne découleront pas s'ils baissent pas le prix.
Je pense que
alors, quand dématérialisé, t'as pas de stock, t'as pas de perte.
C'est assez exceptionnel, Mirror's Edge.
Ça, limite, on fiche. Il y avait des promos dans les deux.
Oui, mais Steam, qui est l'exemple type, fait des promos pareilles avec des games platinum. Sauf que eux, ils présentent pas ça comme un jeu moins cher, ou rarement, ils font plutôt des packs. Avec plein de jeux différents pour très peu cher. Donc,
ou des week-ends,
c'est une autre méthode.
Entier,
hein, ou des week-ends de promo sur tel éditeur, etc. Et ça marche très très fort. Les ventes montent jusqu'à plus de 4000% sur certains titres quand ces promos sont engagés, sachant que c'est quand même des belles promos en général. Mm-hmm. Elles sont intéressantes, c'est pas des jeux de merde quand tu essayes de te refiler à bas prix. Donc les games platinum, c'est juste une transposition du truc. Ça va toujours exister, les promos et les choses comme ça. Quoi.
D'accord.
Quant à Gabe Newell, enfin bref, voilà.
Le patron de Valve, enfin l'un des patrons de Valve.
Alors l'autre point important, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était les DLC. Et on se disait, Julo, tu disais oui, il y a des trucs très positifs, puis après bon, il y a le bon DLC et le mauvais DLC.
Voilà. Bon chasseur et le mauvais chasseur.
Mais alors dans les faits, il y a quand même une étude qui a été réalisée, une enquête là il y a quelques jours.
Assez épatante.
Voilà, et on se rend compte que le DLC, c'est un véritable flop. Il y a plus d'un titre. Ça veut dire que selon cette étude, 15% des joueurs ont déjà acheté un contenu téléchargeable supplémentaire, donc les fameux DLC. Mais surtout, et ça c'est plus inquiétant, c'est le manque de visibilité des produits dématérialisés, puisque 43% des joueurs, c'est pas du grand public, etc., n'auraient même pas entendu parler d'un DLC adapté au jeu qui les intéresse.
Si je ne m'abuse, ils ont interrogé tous ceux qui avaient une console, peu importe la console.
Oui.
Donc y compris les gens qui avaient des PS2, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent sur PS2 à la maison, etc.
Ou même des Wii.
Ou... Mais sur Wii, il y a des DLC.
Mais oui.
Ça existe.
Mais je sais, mais peut-être que eux, les gens ne savent pas.
Oui, peut-être, ouais, ça, cela dit.
C'est ça, je veux dire.
C'est quoi les DLC sur Wii?
C'est par exemple des chansons pour je sais plus quel jeu musical qui a été le premier à faire du DLC.
Sur Wii.
Oui, oui.
Il y en a pas beaucoup, ça.
C'était Guitar Hero ou Rock Band, je sais pas.
Oui, c'est possible.
Oui, si, c'est Guitar Hero.
Enfin bref, si t'interroges les gens qui ont une PS2 ou une GameCube ou je sais pas quoi, forcément, ils vont pas être super au courant. Je pense que quand même, les mecs qui ont une Xbox par exemple, s'ils sont pas au courant qu'il y a des DLC. Enfin, je sais pas dans quel.
Mais en tout cas, ce qui est sous-jacent derrière ces chiffres, c'est de dire que visiblement, en tout cas, c'est pas si facile à mettre en. Une bonne promotion, en tout cas, c'est pas très
inscrit
dans la tête des gens.
Mais t'as toujours un problème de place, lesquels tu mets en avant, quand, il y a les calendriers, c'est toujours le même problème. Tu peux pas tout mettre en avant sur un écran. Quoi,
c'est un petit peu normal quelque part, parce que le type, il va acheter son jeu, il va dire, bah voilà, j'ai le jeu complet, quoi. Pourquoi je dois télécharger d'autres trucs après, machin, c'est pas normal.
C'est là qu'intervient le bon DLC, où il te fournit un nouveau jeu, utilisant les routines et les moteurs.
Un seul développeur a fait ça.
Mais
il y a que Rockstar pour moi qui a fait un truc normal.
Un vrai DLC.
Un vrai DLC.
Le jour où j'étais mort de rire,
de l'arnaque absolue.
Je suis super d'accord.
C'est de l'arnaque absolue.
Ouais, alors à ce sujet, il y a le truc ultime quand même. Vous avez joué à Prince of Persia, le dernier Prince of Persia.
Oui, avec la fin.
Acheté un mois après.
Bah alors en fait, quand tu finis le jeu, avant même qu'ils aient parlé des DLC, etc., il y a le dernier. Au moment où tu finis le jeu, tu unlocks le dernier succès. Et comment s'appelle-t-il ? À suivre, 3 petits points.
Ouais.
C'est le nom du dernier.
T'as un gros majeur truc à débloquer. Ça.
Et là, tu dis ok, d'accord. Et surtout quand tu vois la fin qui termine dans le boudin.
Là, c'est effectivement, il y a de l'abus absolu par rapport à.
Ça, c'est bien. Il y a un moyen simple. Il y a un moyen. Rockstar, tous les autres trucs, c'est vraiment soit du DLC, vraiment pour les, on va dire, pour parler tranquillement et bien. Les fans, les méga fans, soit c'est du foutage de gueule quand les trucs sortent une semaine après avec 15 t-shirts, costumes à 7,25€ et tout. Non, mais
ça, c'est encore autre chose, c'est les histoires d'avatar et tout ça.
La fanitude.
Rockstar, c'est vraiment l'exemple type du DLC qui est fait à l'ancienne, comme des extensions PC entières avec des vrais trucs en entier, des vrais épisodes à part entière et tout, super bien foutu. Mais d'un
t'arrêtes
côté,
de dire entier,
entier. Et il y a aussi des trucs qui sont moins ambitieux, mais il y a, je sais pas, moi, l'île de Nolt, c'est par exemple pour Fable 2, c'était pas génialissime, mais c'était pas aussi cher non plus que ces DLC.
Mais c'était un truc prévu
avec des quêtes en plus.
Ça n'empêche.
Il est sorti pas mal de temps.
Oui,
après,
mais quand même, c'est prévu. Moi, je me rappelle d'un reportage que j'avais fait chez.
C'est dispensable, quoi.
Chez comment il s'appelle, le jeu de voiture PGR.
Ouais.
Oui, je sais plus à l'époque duquel c'était. Je peux raconter mon histoire?
Ouais.
S'il vous plaît.
L'histoire de Julo.
Et non, je fais le reportage et il y a des mecs qui disent putain, regarde là, on dirait Paris, je sais pas quoi. Et
oui, ça arrive plus tard.
Ouais, mais exactement.
Voilà.
Et à l'époque, moi, ça m'avait vachement choqué en fait. C'est la première fois que, j'étais face au problème.
Mais c'est évident.
Et en rentrant à Paris quelques mois après, on se dit bah, il y aura telle ville, telle vite la vie, j'ai dit attends, je suis pas fou, j'ai vu Paris là-bas, j'en suis sûr. Et il y a eu le DLC, voilà. Ils le développaient en même temps.
Mais oui, mais c'est normal qu'ils le prévoient avant.
En même temps, c'est comme
les normal, ils vendent pas les jeux assez chers, alors voilà.
Non, mais c'est pas ça. Non, je veux dire, c'est normal dans la logique d'un développement de prévoir les DLC maintenant avec. Ils le feront tous comme ça.
Et ah bah ouais,
ça, ça sert à rien. Le seul moyen de se battre contre des DLC d'escrocs, c'est de ne pas les acheter. C'est tout.
Tout à fait.
Il y en a pas d'autres.
Ouais, quand t'as des costumes supplémentaires ou je sais pas quoi.
Bah voilà,
je suis désolé, ça ils devraient les offrir à ceux qui achètent le jeu. Je suis désolé, je trouve que c'est la moindre des choses, quoi.
Mais oui, vraiment. Mais bien sûr, mais mine de rien, en même temps, Capcom, ils en ont vendu des putains de costumes,
oui,
des nanas,
bah, je
machin.
Dis pas le contraire.
Donc tant que ça marche, pourquoi est-ce qu'ils le feraient pas, quoi.
Quand il y aura des totos.
Et là, Raon a tout à fait raison. Arrêtez de jouer les pigeons et n'achetez pas
bah
ce
oui.
truc-là.
Si vous êtes pas d'accord avec un truc, l'achetez pas, quoi. Il s'agit même pas de gueuler. Oh putain, vous faites super bien les pigeons.
Ah mais c'est vrai, si on arrête d'acheter.
Mais c'est tout con.
D'acheter ML.
D'ailleurs, je
c'est comme TF1, ça,
quand vous n'aimez pas un truc. Quand vous n'aimez pas un truc, ça sert à rien de gueuler contre, faut juste pas c'est le consommer,
ça.
C'est tout.
Voilà.
Je consomme pas, moi ça tombe très bien.
Arrêtez d'être français, merde.
Voilà.
Non mais le dédain, etc., c'est la meilleure.
C'est le meilleur.
On a le droit de dénoncer aussi ça, parce que c'est un peu notre boulot quelque part.
Ah oui, c'est vrai.
Oui,
c'est
voilà.
Sûr, je suis
après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Dans notre rôle.
Courcour.
Organisons une manif.
En tout cas, pour conclure ce vibrant podcast.
Attends, non, oulala, mais t'es ouf.
Eh ben, il faut qu'on parle un petit peu de moult points, à commencer par eh bien cette espèce de mythe de la console unique qui pourrait réémerger grâce justement avec la force du dématérialisé, qui peut apporter beaucoup de choses. La fin de la course à la puissance. Un visuel toujours maximal, hein, et ça c'est ce qu'offre On Live.
Ouais. Je peux te couper?
Oui.
Je peux te couper, c'est déjà fait.
J'ai oublié de dire un truc. Voilà, c'est ça, mais c'est tout à l'heure, t'es 40, c'était combien t'avais dit le pourcentage de gens qui ne savaient pas ce qu'était les DLC?
43%.
43%. Ouais.
Effectivement, moi je me demande quand même un petit peu qui vraiment ils ont interrogé dans le panel, parce que tu prends juste la Xbox par exemple, c'est 39 millions de consoles, et il y a quand même plus de 20 millions de comptes dessus. Et les mecs, ils ont dès que tu
à partir du moment où t'as créé ton compte, ouais.
Putain, t'as du DLC en plein ta gueule, quoi.
Tu le vois devant tes
donc
yeux.
C'est quand même.
Non, mais je crois avoir lu quelque part qu'ils avaient justement interrogé tous les gens qui avaient une console.
D'accord. Donc voilà. Effectivement.
Donc il y a quand même encore beaucoup de gens. Ça doit dépendre en plus des régions où tu vas poser la question, tu vois.
Ouais.
Qui ont des PS2 et des GameCube et compagnie.
Bon. Donc la console unique.
Enfin, on l'a paumé là.
Enfin, non, parce que j'apporterai une nuance, c'est que sur les 20 millions d'abonnés au live,
ouais.
Donc, dont tu parles, il n'y en a que 56% qui sont abonnés au service Gold, et à mon avis, donc 10 millions. En gros,
mais quand t'es Silver, tu vois les DLC et tu les consommes aussi.
Je pense qu'ils ne sont pas là pour ça. Pour télécharger des vidéos.
Oui, mais ils savent ce que c'est.
Tu les vois. Bah non, c'est pas parce qu'ils les voient qu'ils savent ce que c'est.
Oh putain, quand même.
Ça se trouve, ils pensent que c'est une.
Bah, le terme est barbare,
etc.
En même temps, mais.
Il y a plein de personnes qui, à mon avis, c'est pas du tout les dénigrer ou quoi que ce soit, mais qui consomment le truc vite fait, qui en ont un peu rien à foutre. Ils ont fait un compte une fois. J'aimerais bien savoir sur ces personnes-là, combien de. Sur les Silver en tout cas, combien
sont
de personnes
sont
vraiment
depuis,
connectées depuis,
ouais,
sont des membres
sûr.
Actifs, etc. Ils se sont connectés parce qu'il y avait une offre ou un truc, et puis depuis. Je suis pas sûr que ce soit si. On va dans la rue, on sort de Score Games, tu sais ce que c'est et puis après ça va dépendre.
Non mais si on utilise le mot DLC aussi, c'est ça.
Bah, date limite de consommation.
Ça dépend comment tu poses la question. Est-ce que tu sais que tu peux rajouter des choses au jeu en les téléchargeant?
Je pense que ça reste flou encore un peu dans la tête des gens, quoi. Enfin bon.
On en était donc à cette fameuse console unique, aux fameux services que sont OnLive, et dans quelques instants, on va parler bien sûr de Steam et de Metaboli. Par quoi vous voulez commencer ? Allez, c'est bonheur, c'est la fin du podcast, je vous laisse la liberté.
C'est la fête.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Moi, je pense que
les avantages de
la console unique,
les avantages de la formule OnLive, console unique.
Moi, je pense
OnLive,
qu'il faut finir avec la console unique.
Moi, c'est ça que tu penses ?
Oui, parce qu'il faut toujours...
Il faut toujours écouter Jules. Alors, on va commencer par Steam et Metaboli, ça vous va ?
Ok, allons-y.
Alors, Steam et Metaboli. Alors, Steam, ça a été créé le 12 septembre 2003. Depuis, c'est un vrai success story. Hein. 20 millions de comptes actifs à ce jour.
Oh,
70% du marché dématérialisé PC en termes de revenus. C'est quand même gigantesque.
Ouais, ils ont leur concurrente Direct to Drive et
Impulse
se partagent un peu des miettes. Hein. C'est 10% pour Impulse et 20% pour tous les autres.
Ils
sont Direct
foutus.
To Drive plus les autres.
Alors, pour vous donner des chiffres une fois de plus, mais ça permet vraiment de bien comprendre un petit peu la puissance aujourd'hui de Steam, aux heures de pointe, vers 20h en gros...
Attention, non, c'est heures de pointe française là, c'est à 20h en France, mais c'est pas pareil avec les États-Unis. Donc à tout moment, chez nous, parce qu'il y a beaucoup plus d'Américains.
Donc c'est 10 fois
encore. À 20h chez nous,
c'est 10 fois plus là-bas quoi.
Il y a environ 2 millions d'utilisateurs qui se loguent en même temps.
C'est surréaliste.
C'est quand même pas mal, hein. C'est un tout petit peu moins que sur Gameblog.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Et donc, on le disait tout à l'heure, un catalogue de 1040 jeux à l'heure actuelle de proposer, 477, soit moins de 10€, avec des bons jeux, hein, parce que souvent on dit, bon, bah, les jeux pas chers, c'est forcément des sous-jeux. Bah, pas du tout, hein. Il y a quand même Knight of the Old Republic, il y a Stalker, Clear Sky.
Compagnia Virus, qui est même pas très vieux que ça. Hein, tu vois, c'est pas...
Trials 2, Saints Row 2, bon, ouais, bon. Braid, enfin. Il y a du vrai bon jeu et il y en a plus d'une centaine qui sont à moins de 5€, donc là ça devient vraiment vraiment abordable. Il faut quand même savoir que Steam, derrière Steam, il n'y a pas n'importe qui, c'est Valve, les créateurs des Half-Life, des Counter-Strike, et aujourd'hui quand même ça représente plus de 25% de leurs revenus. Hein.
Alors quand ils sortent un jeu sur Steam et en boîte, ils font 25% de leurs chiffres sur les versions dématérialisées et 75% de leurs chiffres sur les versions boîte.
C'est étonnant ça aussi, non ?
Ah, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui s'est passé avec Half-Life 2, mais je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, Half-Life 2, on en bouffait partout, hein. C'était juste énorme quoi. Donc c'est Half-Life 2, un des premiers d'ailleurs, qui est sorti en même temps sur Steam et en version boîte, et il y avait beaucoup de gens qui étaient tellement... Enfin, ces 25% de vente là, en fait, c'est les 25% des gros 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 fans qui voulaient l'avoir tout de suite à minuit en débloquant le jeu qu'ils avaient déjà pré-téléchargé en attendant la sortie.
Il devait y avoir aussi pas mal de fans qui voulaient l'avoir en dur, je pense.
Ouais, il y avait
parce
une version collector avec un t-shirt et tout, j'ai encore la boîte à la
maison. On s'était pas encore fait peut-être autant.
Mais est-ce que Steam, c'est pas un petit peu le symbole vivant du succès, du nouveau succès, du changement de mentalité autour du dématérialisé ? Parce que, rappelons-nous, hein, aujourd'hui...
Ragal, par exemple, qui en parlait tout récemment, qui a consommé beaucoup plus lui en tant que gros joueur PC.
Exactement.
Sur Steam en dématérialisé, il s'est aperçu de ça récemment.
Et puis surtout, Steam aujourd'hui, on en parle, genre success story, 20 millions d'utilisateurs, etc. Au début, c'était un peu l'angoisse quand même.
Ah bah ça marchait pas bien. C'est ça le problème, c'est que en tant que pionnier t'essuies les plâtres quoi.
Mais ils faisaient autre chose à côté. Ils ont pas lancé que cette boîte là. Donc pour eux c'était vraiment.
Bah, à la base ils étaient développeurs
de jeux. De compléter leur revenu entre guillemets. Quoi.
Mais ils ont été super visionnaires parce
que. Mais plus que ça même ils ont.
Ah bah bien sûr. C'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être aussi indépendants et de pouvoir dire bah notre jeu on le sort quand on l'a fini.
Mais ils ont créé un modèle. C'est comme iTunes avec la vente de musique. C'est-à-dire que c'était les pionniers quoi.
Attends, Steam Like.
Ils ont mis en place une façon de faire quoi. Et quelque part maintenant quelqu'un qui se lance dans ce business là il va faire la même chose quoi.
Et puis il faut voir aussi à côté, c'est que Steam ça n'est pas seulement une méthode de consommation et un portail de distribution, c'est aussi des features de communauté, des trucs de groupe, des stats, des
putain, c'est gambling.
Bah exactement, putain, donc,
exactement ça.
C'était des pionniers, ils l'ont fait presque un peu avant nous. Non mais blague à part, au départ personne n'y croyait trop, puis il y a des gens qui ont commencé à se dire bon, on va se faire distribuer par Steam parce que la formule est finalement intéressante.
Il y a même des éditeurs qui ne distribuent leurs jeux que sur Steam.
Enfin, certains d'entre
eux, tous leurs jeux, mais
oui,
en tout
mais
cas
une partie de leur catalogue.
Il y a eu des catalogues effectivement, des jeux
tu prends beaucoup moins de risques, et puis comme c'est une plateforme super
bah maintenant c'est
super
évident qu'il faut le faire
implanter quoi.
Et puis il y a des éditeurs qui arrivent à vendre des jeux qui se sont complètement plantés en retail. Par exemple je pense à Unreal Tournament 3 qui a fait un four, qui n'était pas joué en ligne, etc. Ils l'ont Epic l'a redistribué via Steam avec des réductions, certes, mais ce qui est quand même très important. Mais en étant moins cher, le jeu a réussi à conquérir un nouveau public et à retrouver au moins une forme d'équilibre et à être joué un peu en ligne, à vivre peut-être pas à la hauteur des gros cartons du jeu en ligne.
Mais il y a le côté pratique, il y a le côté moins cher, il y a le côté exposition aussi. Hein,
et
parce
puis,
que Steam, c'est quand même.
Ça coûte rien.
Voilà quoi.
Ça coûte quasiment rien pour l'éditeur. Tant qu'il vend pas le jeu, il a pas à reverser à Steam. C'est ça aussi le truc, c'est que
c'est,
tous ces modèles de dématérialisation sur les plateformes,
gagnant-gagnant.
Le mettre à distribution coûte zéro pour les développeurs. Mmh. Et c'est à partir du moment où ils en vendent qu'ils partagent et qu'ils doivent reverser une partie de leur contenu au distributeur.
Ça, c'est fort aussi.
Donc, ils prennent zéro risque.
Mmh. En tout cas, Steam, c'est de l'achat de jeux.
Entre autres.
Dématérialisé.
Oui.
Parlons aussi un petit peu du futur OnLive et de Metaboli qui existe déjà, hein, où là, c'est vraiment de la location de jeux, essentiellement.
Oui.
Metaboli qui existe depuis maintenant 2001 et qui aujourd'hui fait à peu près 15 000 ventes par mois. C'est plutôt pas mal. Et donc là, en gros, c'est vraiment
PC
de la VOD
aussi, encore, ouais.
De jeux vidéo. Mmh. On télécharge, tic, on peut commencer à jouer, on paye pour une durée, et puis c'est parti.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que ça, c'est pas.
C'est un super système. Mais je pense qu'ils vont devoir forcément. Que ce soit sur Steam ou sur le Xbox Live, etc., ils vont forcément à un moment ou à un autre nous proposer ça. Parce que c'est un très bon système, comme on le disait tout à l'heure, pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se payer un jeu à 70€ tous les mois, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement ils acceptent l'idée que parce qu'en fait la location ou l'achat d'un jeu vidéo c'est la même chose, sauf que, enfin techniquement c'est la même chose, tu télécharges quand même le jeu, tu vois, tu l'as sur ta machine.
Mais tu télécharges par bout aussi.
Alors ça c'est aussi encore autre chose, c'est qu'effectivement ce modèle-là permet aussi de faire du contenu épisodique beaucoup plus facilement, et ça aussi c'est un des grands objectifs.
Mais c'est de l'achat épisodique.
Et effectivement c'est que tu achètes des morceaux.
Ouais, à la fin t'as tout le jeu. Et...
Mais pour revenir à la location, je veux dire, moi personnellement en tant que joueur ça m'intéresserait pas de louer un jeu si je suis pas sûr de pouvoir le terminer pendant la durée de la location.
Mais tu le reloues derrière. T'as gardé tes sauvegardes et tout. Tu prolonges ta location.
Oui, au cas
et
où.
Quand tu l'as fini, t'arrêtes de payer, quoi.
Oui, je sais, mais je veux dire, je livrerai pas, par exemple, les 4 premiers niveaux d'un jeu.
Mais surtout que Metaboli, ils font un système d'abonnement, c'est-à-dire tu prends l'abonnement à, je sais plus, 20, l'abonnement à 30, et puis t'as le choix dans une
le
liste de jeux de jouer à ce que tu veux, quand tu veux.
Le 20€, t'es premium, je crois. Je crois que c'est le prix,
voilà.
C'est 20€ par mois.
Tu fais ce que tu veux dans le mois, puis voilà. C'est réglé.
Bah, OnLive fonctionne.
C'est génial.
OnLive fonctionnera aussi avec
un
abonnement.
Comme ça, ouais.
Un abonnement assez peu cher, éventuellement l'achat de la micro-console si on veut jouer sur la télé.
Pour Spotify chaque mois, je trouve ça pas mal.
Et ensuite, oui, bon, d'accord. Je suis très content de claquer autant de thunes pour Spotify. Mmh.
Oui, mais tu n'entends pas quelqu'un.
Moi, ça me manquerait.
Je n'entends pas la voix sexy qui plaît tant à Julien. Sur OnLive, donc un abonnement, et puis après, tu pourras choisir d'acheter ou de louer les jeux à la carte.
Mmh. Et puis OnLive, on voit en tout cas le soutien des éditeurs principaux.
Des éditeurs.
Electronic Arts, Take-Two, Ubisoft, Epic Games, Atari, Codemasters, THQ, Warner Bros.
Il y a tout le monde sauf Activision. En gros.
Ouais, c'est ça. Eidos.
Ils vont faire leur propre plateforme, t'inquiète pas.
Ils sont vraiment tous là. C'est quand même un très très beau soutien. On comprend un peu mieux. Toi, t'as vraiment été bluffé par les derniers propos du responsable d'OnLive. Pourquoi ?
Bah, d'une part, déjà le mec est habité, c'est clair et net.
Il y a quand même beaucoup de personnes qui. Jusqu'à aujourd'hui, même encore, même actuellement.
Mais moi aussi, je suis dubitatif.
Des capacités de ce service.
Oui, parce que technologiquement, c'est quand même.
C'est encore juste. Peut-être.
Ça doit faire ses
ping,
preuves. Ouais, la latence des connexions, etc. Enfin, il y a plein de problèmes techniques dans lesquels on ne va pas rentrer maintenant, mais qui effectivement amènent la plupart des gens à douter sur l'efficacité réelle du système. Mmh. Il se trouve qu'en réalité, au lieu de s'emmerder à réduire les images d'une certaine manière traditionnelle, ils se sont basés en fait sur des moyens, sur les limites de nos perceptions à nous en tant qu'êtres humains, pour pondre de nouveaux algorithmes de compression d'images et choses comme ça qui sont vraiment adaptés et spécifiquement écrits pour les images en mouvement, pour le jeu vidéo, etc., etc. Donc ils ont beaucoup bossé
même
là-dessus.
Si c'est chaud quand même, parce qu'on sait que
on n'est pas tous égaux par rapport à la perception.
Personne n'est égaux, hein.
Donc effectivement, on attend de voir. Mais en tous les cas. Quand il fait des démos du truc, et quand il montre ça, quand il explique comment ils ont fait, et cette façon qu'il a de répondre en toute franchise à n'importe quelle question que lui pose ce parterre d'étudiants à qui il fait la présentation, tu te dis, le mec est sûr de son truc, ça fait 7
et
ans
sinon,
qu'il bosse
dessus.
Pensé à tout.
Eh bah ouais, mec.
J'ai une réponse à cette question.
Non, mais c'est
il
vrai.
A pensé à tout.
Les mecs, les étudiants lui posent des questions, mais oui, mais économiquement, comment vous faites ça, c'est quoi votre business là-dessus, etc. Le mec répond, quoi. Je veux dire, c'est ça y est, le diable est sorti, ils sont restés secrets pendant 7 ans, maintenant ils balancent.
Alors attends, économiquement, ça va être un abonnement mensuel.
Oui.
Et alors, ils sont payés comment, Electronic Arts, Take-Two, etc., qui filent leurs jeux et que les gens.
Et alors, OnLive leur rétrocède une grosse partie du prix que chacun va payer
sur
l'achat ou la location des jeux.
Ouais, des jeux joués, exclusivement. Donc, en gros, ils fournissent le catalogue.
Si c'est un abonnement mensuel, abonnement lié à chaque jeu.
Non, non,
donc
c'est un abonnement pour accéder au service.
Oui.
Donc c'est sur cet abonnement-là.
Bah oui,
non, l'abonnement vient à OnLive. C'est que OnLive.
Ok.
Bah s'ils reversent forcément une partie de cet argent.
Non, ils ne reversent rien sur l'abonnement.
Ah oui, ils s'en vont avec la thune, ils se cassent.
Que paye l'utilisateur d'OnLive revient à 100% à OnLive. Mmh. Ensuite, quand tu achètes ou quand tu loues un jeu d'un éditeur, l'éditeur gagne de l'argent sur ce jeu.
C'est vraiment tout con. Hein.
Ah, donc tu payes un abonnement général
pour accéder au service.
Pour ensuite
qui est très peu cher.
Comme le Xbox Live.
Bah, comme le Xbox Live, comme Free, comme Numéricable, comme Telecom, comme SFR Box.
Exactement, j'ai envie de te dire.
C'est pas,
bah oui, sauf que t'as des trucs gratos.
Oui, mais il y en aura
aussi.
La VOD.
Tu payes un abonnement mensuel, puis en plus, quand tu veux louer un film, tu payes le film.
Sauf que vous avez déjà joué à Doom sur Free.
Tu payes pas un abonnement mensuel.
Bah si, tu payes ton abonnement Numéricable.
Oui, mais mon abonnement Numéricable, j'ai des chaînes, j'ai des trucs quoi.
Bah là,
oui,
bah
après c'est une question
de télécharger des démos, regarder des matchs de jeu, envoyer.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de versions communautaires. T'as des trucs de ouf.
Chatter en ligne.
Et en 3D.
Isométrique,
donc,
je crois.
Donc voilà, oui. ça sera le modèle. Donc bref, pour revenir
au modèle économique,
à l'avantage de la console dématérialisée, c'est cette possibilité effectivement d'arriver sur une plateforme unique. Qui pour moi présente certains avantages.
Alors Julo n'est pas d'accord. Il s'inscrit en
alors j'attendais que tu dises unique. Alors c'est une plateforme dématérialisée certes, mais elle sera jamais unique.
Effectivement,
jamais.
Il peut y avoir plusieurs services.
Bah qui voilà, c'est
donc
ça.
C'est juste une transposition.
Est-ce que tu crois que Sony va dire
c'est exactement ce que j'allais dire.
Ok, bah j'arrête de faire des consoles et puis comme ça je vais venir avec Electronica.
Sur
Online, on va aller sur votre machine.
Impossible,
génial. Et comment tu veux?
Attends.
Je pense que Ron Perlman, à mon avis, on va le retrouver dans un cercueil un jour.
Regarde Sega. Alors Sega et Sony, c'est pas.
Sega, tu veux dire le Sega à l'agonie à l'époque.
Voilà, ils ont jamais été aussi riches aujourd'hui que depuis qu'ils font plus de hardware.
Oui, mais c'est pas.
Alors attention. D'accord, oui.
Sony, c'est un constructeur depuis
mais
très longtemps. Nintendo, pareil.
Au moment où ils ont arrêté de faire du hardware, ils étaient à l'agonie.
Mais Sony va pas super bien.
Est-ce que Nintendo est à l'agonie?
Non, Nintendo,
c'est un colosse au pied d'argile. Voilà, c'est ça en fait. Il y a énormément de thunes qui circulent, mais c'est vrai qu'une moindre étincelle et ça peut faire tout péter quoi. Mais Microsoft, c'est pas le cas.
Non.
Alors Nintendo, c'est super pas le cas.
Vous remarquerez tout à l'heure quand on parlait de la pérennité des services, j'ai pas cité Sony. Hein. J'ai parlé juste de Microsoft et Nintendo parce qu'effectivement
et l'histoire lui donnera peut-être raison.
Et là, tu
non mais attends, mais ils n'accepteront jamais un principe de console unique puisque eux. La raison pour laquelle ils font des jeux, c'est pour mettre un hardware sous ta télé dans le salon de plus de gens possible.
Exactement.
Je suis d'accord.
Ils veulent faire cette console.
Rappelez-vous de la 3DO, les mecs. Ils se font défoncer la gueule.
Mais ça n'a rien à voir. C'est
mais
pas
si.
Mais si, parce que c'était.
Rappelez-vous du vase de Soissons.
Rappelle-toi du vase de Soissons.
Mais non, mais c'est pas le même modèle.
Mais je sais que c'est pas le même modèle, mais on peut transposer quand même si j'ai envie d'abord. Je t'emmerde.
Merci, Traz. Non, mais bref, tu as raison, Julo. Effectivement, il y aura une transposition du problème.
Non,
ceci dit, il y a une console unique en termes de hardware. C'est ça l'important. C'est-à-dire que les jeux seront développés pour une seule et même plateforme.
Et certains jeux seront développés pour une certaine plateforme qui ne sera
non,
pas
pour un certain
seul.
Service.
Qui ne sera pas seul.
Qui ne sera pas
en
seul.
Gros, ce que voilà.
C'est très important. C'est que, effectivement, il y aura une concurrence de fait parce qu'au lieu d'avoir des consoles différentes, on aura des consoles différentes avec des titres exclusifs à ces consoles. On aura des services différents avec des titres exclusifs à ces services. Ça, d'accord. Mais en termes de. Quand je parle de plateforme unique, c'est une plateforme hardware qui fait que chacun développera sans s'emmerder à savoir que sur telle console, il peut faire tel truc. Sur telle autre, il peut faire tel
tout
autre.
Tout à fait.
Ce sera pour tout le monde pareil.
Comme pour un film.
Voilà.
Le film, tu t'en branles de savoir.
Tout le monde a accès à toutes les caméras, tout le monde a accès à tous les outils.
Après, sur un DVD, un Blu-ray, Numéricable, Free ou quoi que ce soit.
Et du coup, les talents peuvent se focaliser sur cette plateforme-là qui sera toujours au top en plus parce que toi, en tant qu'utilisateur, tu n'auras pas besoin d'upgrader ton PC, tu n'auras pas besoin de racheter une console. Tu seras toujours abonné à un service qui lui-même va se mettre à jour en fonction de la technologie.
Au service d'obtenir des exclusivités, au service d'obtenir d'implémenter des services encore plus sympas, une interface tellement vachement mieux, etc.
D'accord, mais attends, que je comprenne bien ce que tu dis.
Ce que je dis, c'est que...
Non, attends, je pose une question, parce que techniquement, alors je suis pas à ta hauteur, maître, mais...
touche ma boche, méchée.
Lâche-moi les pieds.
Mais comment dire, tu veux dire qu'un jeu qui va être développé pour le service OnLive, du fait qu'il soit...
Demain, tu peux le mettre sur le service Bidule, si tu veux.
Et pourquoi?
Ah, ça existe Bidule.
Parce qu'il sera, ça sera
pourquoi plus qu'aujourd'hui? Parce que le truc... Enfin, je veux dire, il y a de l'accélération 3D, il faut de la RAM, des machins pour faire tourner chaque truc.
Oui, mais c'est un format...
Et ils utilisent peut-être pas les mêmes technologies,
si,
Sony...
Si, c'est le cloud computing. En gros, c'est du cloud computing. Non, ça tourne sur des PC, en gros, voilà. C'est des versions PC du jeu pour résumer si tu préfères.
Ça tournera sur des PC.
En gros, c'est des PC.
Ouais,
ça sera pas les mêmes PC chez OnLive et chez Sony. Enfin, ils auront peut-être pas les mêmes technologies. Peut-être que Sony.
Mais c'est comme une voiture, Julo. C'est comme si tu faisais de l'essence.
C'est les mêmes technologies.
Total, il faut la même essence.
Ouais,
soit
mais
une
d'accord.
Voiture,
mais non,
Nissan,
c'est pas exactement
Toyota.
Pareil.
Bah, si. C'est pas les mêmes moteurs.
Mais t'as des moteurs qui sont. T'as des moteurs qui sont qui t'emmènent à 250 km/h et d'autres
pas les mêmes pistons. Voilà, mais c'est la même essence.
Et grosso modo,
si
toutes les voitures. Non, mais c'est vrai. Non, mais il a raison. C'est-à-dire que toutes les voitures utilisent grosso modo la même essence. Donc ils
utilisent parce que les mêmes ils utilisent tous le moteur à explosion. Non, mais et les moteurs à explosion, ils fonctionnent pareil sur toutes les bagnoles.
Oui, mais il y a des moteurs à explosion différents.
Et là, l'accélération 3D, le machin, etc.
Il y en a qui ont une accélération 3D de ouf, des Ferrari, des Porsche, des machins, et d'autres des accélérations pourries, des.
Mais non, parce que c'est pareil, c'est pas les mêmes technologies. Mais c'est bien que faire un portage aujourd'hui entre
plus ou moins vite, il y a plus ou moins de pistons.
Le diesel, je signale que c'est pas la même chose, donc arrêtez de dire n'importe quoi.
Oui, mais en gros, il y a trois styles d'essence.
Bon, bref, ah voilà. Virons cette putain de métaphore. Tout ça pour dire qu'en gros, tous ces services-là font tourner les jeux sur des ce que l'on peut considérer comme étant des PC. Ce ne sont pas dans l'effet des PC, c'est des grosses rendements énormes avec des serveurs gigantesques, mais grosso modo, ce sont des PC. Ce qui fait que tous, aujourd'hui, peuvent faire tourner Crysis avec tous les détails à fond, ce que tu ne peux pas faire à moins d'être ultra tuné.
J'ai une illumination.
Non, c'est une métaphore ou pas ?
Non, c'est une révélation. En fait, on est tout le temps en train de parler de la console unique, mais elle n'arrivera jamais, ce sera le PC unique. C'est la mort de la console qui est en train d'arriver. Et le retour du PC.
Oui, oui.
Parce qu'on va tous tourner sur le PC. Ça. Oui, c'est la fin de la console.
Le retour d'une plateforme.
C'est, le retour du PC.
Non, mais ce qui est certain, effectivement, c'est
Non, parce que la console, c'est aussi une certaine idée du jeu vidéo.
Ok, je crois qu'il est temps, là, de...
Et c'est ainsi que se conclut.
Non, mais mine de rien, effectivement, il y a certains problèmes qui vont se transposer de la plateforme au service, c'est évident. Mais je pense que c'est mieux que chacun des studios de développement se base sur une architecture plus ou moins commune, qui sera grosso modo celle du PC, qui reste quand même technologique. Bon, pour la plateforme la plus performante, si tu prends les derniers PC qui existent,
le truc high-end,
voilà, si tu veux, effectivement, bien joué. Putain.
Mm-hmm. En 2010, je passe de l'anglais partout.
Oula,
oh my gosh, World of Warcraft!
Hello and welcome to the podcast.
Ça, c'est bénéfique pour les joueurs parce que ça veut dire que les formations vont aller dans la même direction, que tu n'auras pas besoin de réapprendre à chaque fois un nouveau hardware, que l'expérience des développeurs passera de génération en génération.
Et franchement, il y a beaucoup de développeurs qui l'appellent de leur vœu.
Ah bah oui, forcément.
Là, les signaux du PC,
les éditeurs
sont,
aussi. Hein.
Oh là là, ouais,
parce clairement. Que les éditeurs, ils veulent juste vendre des jeux. Ils s'en foutent de savoir sur quelle plateforme c'est. S'ils n'ont plus qu'une seule version à développer pour tous les services, putain, c'est tout bénef.
L'explosion du multiplateforme, c'est la première étape de ça, justement.
Mais ils l'ont fait à reculons et parce que c'est une contrainte économique, parce que ça leur coûte de l'argent de développer plein de versions sur l'hardware.
Est-ce que le modèle économique de ce truc-là est super viable pour un Nintendo, un Microsoft qui se font aussi du beurre sur des machines
que
les gens achètent.
Mais s'ils sortent leur service, c'est ce qu'il faut.
Tu des Nintendo, hein, parce que.
Ouais, il y a que Nintendo.
Je peux te dire que pour l'instant, ils ont gagné pas beaucoup de l'argent sur leur console.
Oui, mais admettons pour Nintendo. Nintendo, à mon avis, il lâchera jamais le. Plus d'or qui est la console, que les gens veulent avoir chez eux, etc. Donc,
bah, ça dépend.
Moi, là,
regarde, Nintendo, pour l'instant, ça, là, oui, ils mettent pas toutes leurs thunes dans le hardware. Ils mettent même le moins possible de thunes dans le hardware, en fait. Et l'extension de ça, si on prolonge ce raisonnement-là, c'est la micro-console de OnLive, c'est-à-dire ça n'est plus qu'une interface internet et vidéo.
Et qui nous dit que c'est pas la prochaine Nintendo ? Sur ces bonnes paroles, on va vous envoyer dans les forums de Gameblog.
Le teasing.
Car c'est ainsi que s'achève le podcast 127. Faut-il avoir peur de la dématérialisation ? Vous l'aurez compris, en tout cas, il y a énormément de questions encore en suspens.
Et puis on reviendra dessus probablement, parce que c'est un des gros thèmes d'avenir.
Ah, ça, très très clairement.
Exactement.
Mais en tout cas, probablement que vous avez votre propre opinion, déjà peut-être forgée, elle a peut-être déjà évolué à l'écoute de ce podcast, ou elle avait peut-être déjà changé un petit peu dans les mois précédents. Ça nous passionnera de savoir un petit peu ce que vous en pensez un petit peu pour voir si pour vous c'est un futur obligatoire, c'est un futur qui arrivera peut-être ou pas, et en tout cas de voir quelle direction vous imaginez pour le dématérialiser et donc l'avenir du jeu vidéo au sens large. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast toujours aussi vibrant. Voilà.
Et Célesto Cosmique.
Et Célesto Cosmique, bien évidemment, toujours sur cette table rouge laquée. À la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao ciao.
Ciao.